Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans Apolline Matin, comme tous les matins, 7h, 9h, nous sommes le mardi 11 août, avec toute l'équipe à mes côtés, Pierre Rondeau, notre économiste, Clara Gabillet et Charlène Villemer pour la météo, et avec vous, on vous attend au 32-16, Clara lit tous vos messages sur tous les sujets sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. À 7h10, nous serons avec Simon Porcher, c'est le co-directeur de l'Institut de l'économie de l'eau qui sera donc notre invité pour parler de la sécheresse historique que nous vivons actuellement dans notre pays et des restrictions. À 7h40, Cyril Cormier de Que Choisir Ensemble nous détaillera la nouvelle loi sur le démarchage téléphonique qui entre en vigueur aujourd'hui. Est-ce vraiment la fin des appels incessants? À 8h10, Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et notre invité, l'immigration, la sécurité, le manque de moyens décrié par les pompiers, pas de trêve estivale pour lui. Et puis cinquième vague de canicule en ce moment sur la France face au dérèglement climatique. Peut-on encore espérer ou faut-il s'attendre au pire? François Gémen, membre du GIEC, expert du climat, sera avec nous à 8h40. Je parlais, de la canicule. J'ai déjà un coup de chaud, Charlène Villemer.
Oui.
Il va faire chaud et ce n'est que le début.
Eh oui, puisqu'elle progresse, hein, cette canicule. Elle était localisée hier, notamment dans le sud-est. Et là, elle gagne l'ouest du pays avec la Bretagne. 43 départements, hein, seront en vigilance orange canicule dès ce midi. Avec des températures plutôt douces encore ce matin, entre 14 et 15 degrés en Bretagne. Mais ça va chauffer. Quelques averses situées entre le Limousin et puis les Bouches-du-Rhône. De la grisaille aussi sur le littoral aquitain et puis au nord de la Bretagne. Partout ailleurs, grand soleil ce matin. Cet après-midi, le ciel sera bien dégagé au nord du Cotentin jusqu'à l'Alsace, avec des orages et des averses qui seront attendues, notamment sur les reliefs. Le relief pyrénéen, la Corse et puis les Alpes. Les températures, on en parlait avec Rémi justement, elles sont encore douces ce matin. 14 degrés à Brest, 14 également à Lille, mais déjà 26 du côté de Nice, et ça ne fait que augmenter cet après-midi, puisqu'on aura 36 du côté de Montélimar, 36 à Marseille, 36 à l'ouest également, 34 à Bastia et en Corse. Et puis demain, eh bien, ça va continuer de grimper encore, puisque le pic de chaleur est attendu, lui, jeudi. On aura des nuits tropicales, hein. Ça va moins baisser. On ne passera pas sous la barre des 20 degrés. Baisse des températures prévues pour samedi, avec un vent d'ouest qui va venir rafraîchir tout ça.
Merci Charlène. RMC, 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. La France face à une sécheresse exceptionnelle. Les restrictions d'eau se multiplient et la nature est en souffrance. Le démarchage téléphonique raccroche, les appels commerciaux non sollicités auprès des particuliers sont soumis à de nouvelles règles, un changement majeur pour des millions de Français. Et Léon Marchand a fait le show au championnat d'Europe de natation, une médaille d'argent décrochée hier sur le relais 4 fois 200 mètres.
Clément, la sécheresse s'aggrave en France.
Près de 70% du territoire est désormais sous restriction d'eau, robinet, jardin, piscine. Il faut économiser chaque goutte. Conséquence, hein, des vagues de canicule à répétition depuis le mois de mai. Canicule qui défigure également la nature. Et Marion Gauthier, les fleuves sont à leur plus bas débit pour juillet, selon l'Observatoire Copernicus.
Il ne reconnaît plus la Loire. Ses affluents asséchés sont des chemins de randonnée, s'inquiète Dominique de la Fédération de pêche du Loiret.
On voit des bancs de sable partout. Au niveau touristique, on a des passeurs de Loire qui font des balades en bateau, qui ont des difficultés pour circuler. La température de l'eau, je crois qu'elle était à 28 degrés aux dernières mesures que l'on a prises. Ça m'attriste, quoi. Je me dis, jusqu'à quand?
La pluie attendue pour septembre sur le Rhône, dont le débit est réduit aujourd'hui, rapporte Pierre-Jean Grangette de la Compagnie Nationale du Rhône.
Par rapport aux moyennes historiques, on est globalement 25% en dessous. Ça, c'est sur la mission production d'électroélectricité. On est dans des records de faiblesse de production. Aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences sur la navigation, ça n'a pas de conséquences sur l'irrigation. mais c'est des années qu'on risque de revoir.
Des tensions sur les écosystèmes, sur l'eau potable et les centrales nucléaires, liste le directeur de recherche en hydrologie, Éric Sauquet.
Il y a par exemple Golfech sur la Garonne qui a été arrêtée sans eau. De toute façon, ces centrales ne peuvent pas fonctionner. Elles ont besoin d'eau pour refroidir.
Les eaux européennes s'évaporent aussi, celles du Danube. La semaine dernière, la Hongrie a dû arrêter son unique centrale nucléaire.
Près de 2 nappes phréatiques sur 3 sont sous allée normale, annonce le bureau de recherche géologique et minière.
Et tout de suite après ce journal, Simon Porcher, co-directeur de l'Institut d'économie de l'eau, sera notre invité.
Et préparez-vous à souffrir encore de la chaleur aujourd'hui. 43 départements en vigilance orange, du Finistère à la Corse, en passant par le Doubs. Le mercure va frôler les 40 degrés.
Fini les appels intempestifs, en tout cas on peut l'espérer.
La loi contre le démarchage téléphonique auprès des particuliers entre en vigueur aujourd'hui. Désormais, les démarcheurs ne pourront plus contacter les consommateurs comme bon leur semble. Et Victor Girard, c'est une petite révolution.
Jusqu'ici, vous étiez toutes et tous présumés consentants à recevoir ces appels commerciaux. C'est terminé. Désormais, les entreprises doivent obtenir votre accord lors d'un passage en magasin ou encore via un formulaire en ligne. Un accord valable 1 an et à renouveler ensuite. C'est donc un changement de paradigme, la fin de Bloctel, cette fameuse liste d'opposition au démarchage téléphonique sur laquelle il fallait vous inscrire. Si désormais vous recevez encore des appels, une seule chose à faire, les signaler sur la plateforme Signal Conso. Mais attention, des exceptions existent, opérateurs téléphoniques ou autres type de contrat en cours, sondage d'intérêt public, collecte de dons, tous ont encore le droit de vous démarcher. Pour le reste, en cas de non-respect, les sanctions sont salées. 75 000 euros d'amende par appel pour une personne et 375 000 euros pour une entreprise.
Avec la nouvelle loi, est-ce que vous êtes enfin soulagé? Est-ce que vous y croyez à la fin de ces démarchages intempestifs? Eh bien, vous nous appelez au 3216. Clément, une attaque au couteau à Toulouse.
Deux policiers municipaux ont été agressés hier par un homme armé. Le suspect, qui a tenu des propos à caractère terroriste au moment des faits, a été interpellé, annonce le maire de la ville. Les victimes, elles, ont été transportées au CHU, Pierre Bazin.
Oui, il est environ 18h hier soir lorsque les policiers municipaux sont appelés à intervenir pour un homme muni de couteau qui se balade dans l'hypercentre toulousain. À leur arrivée, les trois policiers municipaux sont menacés par l'homme qui parvient à blesser légèrement deux agents au bras et au cou. Ces derniers sont rapidement pris en charge par les secours. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait crié à la Wakbar au moment de s'en prendre aux agents municipaux. Il est finalement interpellé avec le soutien de policiers nationaux venus en renfort. L'adjoint à la sécurité de la ville de Toulouse a salué sur le courage, l'engagement et le sang-froid des agents. Les investigations se poursuivent pour confirmer l'identité du suspect et tenter de déterminer ses éventuelles motivations.
La colère des habitants de Trévoux.
8 mois après l'explosion de leur immeuble qui a tué 2 enfants, certains n'ont toujours pas récupéré leurs affaires dans leurs appartements à cause de l'amiante. Notre correspondant Vincent Chevalier est allé à leur rencontre pour RMC.
8 mois après le drame, le traumatisme est toujours bien présent chez Farida, elle qui a vécu 43 ans dans cet immeuble.
À chaque fois que je reviens ici, c'est spécial. On dort pas la nuit comme on peut, on fait des cauchemars, on se réveille en sueur.
Un retour douloureux, mais impossible de faire autrement.
Il y a nos affaires dedans. Comment vous voulez qu'on revienne pas? S'il était vide, qu'il a été vidé, c'est pas pareil. Mais là, on a nos affaires et ça nous attire.
Quelques photos, quelques objets, voilà ce qui reste comme souvenir récupéré. Il y a quelques semaines, tout le reste risque de partir à la benne le 17 août prochain.
Ils vont tout vider nos biens et vont les jeter dans une benne pour ou détruire ou murer tous les accès de l'immeuble.
Christina voudrait, par exemple, récupérer les bijoux du baptême de ses enfants. Mais l'amiante présente dans le bâtiment et éparpillée lors de l'explosion les empêche de retourner sur les lieux.
Ça serait bien un deuxième passage, vu que ça a déjà été accordé en premier. Pourquoi pas un deuxième? Toute cette vitesse de démolir et jeter à la poubelle, c'est très triste, très choquant.
Selon le bailleur, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour y retourner.
L'état d'urgence décrété par le président colombien après un puissant séisme hier, c'est ce qui a tué plus d'une centaine de personnes et blessé des dizaines d'autres. Les secours s'activent pour retrouver des survivants dans les décombres. Les États-Unis ont débloqué plus de 15 millions de dollars pour aider la Colombie. Donald Trump réclame désormais des compensations financières à Téhéran. En réponse, on demande aux Iraniennes d'indemnisation pour les dégâts causés par les frappes américaines et israéliennes. Le président américain veut notamment faire payer à l'Iran les victimes de plusieurs décennies de conflits et d'attaques attribuées à Téhéran.
Attention aux yeux demain si vous observez l'éclipse solaire.
Même si les lunettes spéciales sont en rupture dans certaines pharmacies, pas question de faire l'impasse. Elles doivent être homologuées et portées sans interruption. Les retirer même quelques secondes peut provoquer de graves lésions. Alerte Bahram Bodaghi, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Personnellement, moi, je suis assez surpris de voir qu'il n'y ait pas eu plus de campagnes de prévention comme ce que nous, on avait fait en 99. Peut-être parce qu'on dit que l'éclipse n'est pas totale en France, que la bande est très limitée, mais c'est pas pour autant qu'elle sera pas visible. Et justement, c'est ça qui fait le danger, parce qu'il n'y a pas de douleur. En fait, on a une tache noire qui apparaît au centre de la vision. Il n'y a pas de traitement et donc on abîme définitivement la vision de précision. Donc, bien sûr, on redoute les complications ultérieures.
Léon Marchand n'a pas raté ses retrouvailles avec le public français.
Le quadruple champion olympique, diminué par une blessure à l'adducteur, a été aligné hier sur le relais 4 fois 200 mètres. Et il a régalé le public et a décroché la médaille d'argent, Clément Brossard.
Dans une piscine qui n'attendait que lui, Léon Marchand a lancé le départ du relais français.
Toute l'énergie qu'on a pu recevoir, c'était vraiment ouf. J'arrive à prendre les devants, donc je pense que je suis vraiment content de ce que j'ai fait ce soir.
Un premier 200 mètres stratosphérique, 1 minute 43 secondes, 76 centièmes, mieux que le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris. De quoi faire de lui le 6e meilleur performeur de l'histoire sur 200 mètres nage libre et placer la France en tête. Pierre Largeron, 2e relayeur.
Bah, je me dis qu'il a fait un gros job. Je vois que je suis premier avec beaucoup d'avance. Évidemment, ça met un peu la pression.
Mais les Bleus gèrent. Résiste. Roman Fuchs tape la planche en deuxième position, offrant à Léon Marchand sa première récompense européenne.
Franchement, c'est énorme. Avec Roman, on l'a rêvé, cette médaille, depuis vraiment longtemps sur le 4x2. C'est trop bien.
À la sortie de la piscine, le public français était conquis.
Des frissons. Hyper impressionnant. On avait des gros doutes qu'il soit là. Exceptionnel de le voir ce soir.
Ouais, c'est vraiment trop bien de voir Léon Marchand nager. Il va super vite.
Une coulée incroyable. Enfin, c'est un poisson dans l'eau. On a vibré, quoi. On vit au rythme de ses respirations. C'était génial.
Une nouvelle démonstration de Léon Marchand est attendue jeudi sur le 200 mètres papier.
Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Une médaille de bronze décrochée au championnat d'Europe d'athlétisme en Angleterre. Étienne Dagnos a surpris Jimmy Gressier dans les derniers instants du 5000 mètres. Les championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham, c'est à suivre aujourd'hui sur RMC. Et c'est à vivre également ce soir sur RMC le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'OL défie à domicile le Sparta Prague. Les Lyonnais se sont inclinés à l'aller 2-1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h.
Merci beaucoup Clément. Le prochain journal, ce sera à 7h30. Allez, on va au 32-16. Alexis est avec nous. Bonjour Alexis.
Bonjour, bonjour Rémi, bonjour à tous.
On est en Haute-Vienne.
C'est ça.
Dans quel coin de la Haute-Vienne?
Alors, près de Limoges, sur la commune de Saint-Prétorion.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie, Alexis?
Alors, je suis co-gérant d'une entreprise de nettoyage.
D'accord. Et vous voulez nous parler de cette décision qui a été prise tout à l'heure, on en parlait avec Clara Gabillet dans le morning, par la maire d'une commune, c'était où?
C'est dans la Vienne, dans la vallée, oui.
Dans la Vienne, une maire qui a pris un arrêté pour interdire les aboiements intempestifs des chiens dans sa commune. Une amende de 135 euros si quelqu'un ne tient pas son chien, en tout cas ne l'empêche pas et ne tente pas de l'empêcher d'aboyer de manière intempestive. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis?
Alors, moi, je peux comprendre effectivement, on va dire, le voisinage qui peut être gêné par ces aboiements. Après, je pense que c'est à chaque propriétaire de chien de mettre en place des solutions pour empêcher ces aboiements. Alors, des solutions, on va dire, coller un petit aboiement, je trouve ça un petit peu limite. Je pense que moi, pour avoir un chien, même si j'ai pas eu besoin de faire ça, je pense que par l'intérieur du dressage, on peut arriver à empêcher votre chien d'aboyer, pas besoin d'utiliser des petits aboiements qui envoient des décharges électriques. Je pense.
Mais si le propriétaire le fait pas.
Alors, si le propriétaire le fait pas, effectivement, au début, je pense qu'il faut faire un peu de prévention, aller voir la personne et lui dire. Mais par contre, si au bout de 2-3 fois, on voit qu'il y a pas de réaction et que le propriétaire, par contre, en a rien à faire, oui, je pense effectivement que la sanction, l'amende, peut être une solution. Après, vous voyez, moi, par exemple, en ce qui concerne d'autres animaux, moi, par exemple, j'ai un poulailler avec des coqs. Oui. J'ai eu ce souci aussi par rapport à ça. J'ai mis en place des solutions, on va dire, d'autres solutions. Par exemple, j'ai mis une porte automatique qui ouvre mon porte-poulailler à partir de 8h, ce qui fait que ça dérange pas mes voisins, et j'ai pas de souci.
Donc,
par
le coq ne peut pas sortir avant 8h du matin, ne peut pas chanter. Exactement. Avant 8h du matin, parce que pour lui, c'est
exactement. C'est ça.
Donc, c'est une question de bon sens et de respect de ses voisins, c'est tout. Mais c'est quand même triste qu'on soit obligé aujourd'hui, en 2026, d'en arriver à embêter le maire avec ça, avec ces histoires, que le maire soit obligé de prendre des arrêtés et de passer par des amendes. C'est quand même malheureux, quoi, Alexis.
Ça c'est sûr, mais c'est un peu le problème de notre société d'un point de vue général. Mmh. On est dans une société un peu, je pense, un peu égoïste, où chacun pense qu'à soi l'État est obligé de tout faire, de toujours mettre en place des solutions.
Et on est les premiers à s'en plaindre souvent. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. Alexis qui nous appelait depuis la Haute-Vienne. Allez, dans un instant, c'est du jamais vu. 95% du territoire national métropolitain est actuellement touché par la sécheresse, baisse du niveau des cours d'eau, nappes phréatiques qui se vident. Les restrictions se multiplient. Il va falloir changer nos comportements. C'est le parti pris de Simon Porcher, co-directeur de l'Institut de l'économie de l'eau. Il est notre invité dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Jamais la France n'avait connu ça. En juillet, 95% de notre territoire métropolitain a été touché par la sécheresse. Ça ne s'arrange pas. Deux tiers des nappes phréatiques sont sous les normales. Les restrictions se multiplient. Le gouvernement convoque une nouvelle réunion de crise demain. Il va falloir changer radicalement nos comportements au quotidien. C'est votre parti pris ce matin, Simon Porcher. Bonjour Simon Porcher.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de l'Institut d'économie de l'eau, professeur à l'Université Paris-Dauphine, auteur de « Nous sommes faits d'eau », paru aux éditions Les Corps Conducteurs. On a eu un hiver pluvieux, des nappes bien rechargées au printemps. Comment se retrouve-t-on ce matin en situation record ?
Eh bien, après cet hiver très pluvieux qui a bien rechargé les nappes, on a eu un printemps où il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Et puis on a eu les différentes vagues de chaleur, les différentes canicules. Et donc tout ça a asséché à la fois les nappes et les rivières. Alors pourquoi ? Parce que quand il fait chaud, il y a plus d'évaporation, hein, donc on a moins d'eau qui est disponible pour l'eau de surface. Et puis par ailleurs, quand il fait chaud, on puise plus dans les nappes parce que nous devons nous rafraîchir. Donc on a certains réseaux d'eau qui ont connu des hausses de consommation de 50 à 100%, hein, ça c'est pour l'eau du robinet. Et puis en plus, les plantes ont plus soif, et donc quand vous êtes agriculteur, par exemple, vous utilisez aussi plus d'eau. Et donc on a cet effet ciseau qui fait qu'on a à la fois moins d'eau parce qu'il y a plus d'évaporation pendant des grandes vagues de chaleur, et aussi on doit demander plus d'eau parce qu'on doit se rafraîchir et on utilise plus d'eau.
Simon Porcher, là, très clairement, on est dans une situation qui est véritablement exceptionnelle.
2026, c'est une situation exceptionnelle, oui. Ben, on a dépassé différents records. On a eu des records de température au mois de juillet, qui est un des mois les plus chauds jamais enregistrés en France. On a un record de sécheresse aussi avec un niveau de sécheresse des sols et de l'air qui est extrêmement élevé. Hein. Il pleut quasiment pas aussi depuis plusieurs semaines. Et puis, si on regarde au niveau de l'eau, effectivement, hein, on a eu jusqu'à 99 départements en situation de restriction d'usage de l'eau, dont 67 départements en crise. Donc ça veut dire que ça touche pas seulement le sud de la France, hein, mais ça touche l'ensemble du territoire. Et quand on est en situation de crise en matière de gestion de l'eau, ça veut dire que on vous demande de ne plus arroser vos plantes, de ne plus nettoyer votre voiture, de ne plus remplir votre piscine. Et puis surtout, on demande aux agriculteurs et aux industriels de ne plus utiliser d'eau. Donc ça met à l'arrêt toute la production économique, jusqu'à certains réacteurs, même de centrales nucléaires, qui sont mises à l'arrêt. Donc ça peut poser des questions, même en matière d'électricité.
Très clairement, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, quand je disais que c'était une situation exceptionnelle, c'est que l'exception devient la norme. Cette situation-là, elle va perdurer et ça va se multiplier, ce type de sécheresse.
Ah, ce type de sécheresse n'est plus du tout un événement exceptionnel.
C'est ça.
Et dans le futur, on aura de plus en plus, on fera de plus en plus face à des étés qui seront plus longs, si je puis dire. C'est-à-dire des moments où il y aura plus de pluie, et donc on devra gérer nos ressources en eau. Avec une saison de recharge finalement des nappes qui sera beaucoup plus courte. Il suffit juste de regarder le passé pour voir que ça n'est plus exceptionnel. Hein. Si on prend les vagues de chaleur, je peux vous donner un exemple très personnel, mais moi j'ai 42 ans, à 42 ans j'ai vécu 42 vagues de chaleur. Vous prenez ma mère au même âge, donc la génération d'avant, à 42 ans elle avait vécu 8 vagues de chaleur. Donc effectivement, ce type d'événement n'est plus exceptionnel et devient une règle annuelle.
Il va falloir changer nos comportements, c'est ce que vous dites. Qui va devoir se serrer la ceinture en premier ?
Alors tout le monde en fait doit faire évoluer son comportement avec deux mots-clés, je pense. Le premier mot-clé, c'est la performance. Personne n'aime le gaspillage, donc il faut rendre la goutte d'eau plus efficace. La performance, ça veut dire utiliser moins d'eau dans tous nos processus industriels et dans tous nos usages domestiques. Je peux vous donner un exemple. Hein. Au niveau d'un logement, on utilise de l'eau potable dans les toilettes pour recharger la chasse des toilettes. On pourrait utiliser des eaux grises, donc des eaux de la douche, par exemple.
Mais est-ce qu'il faut contraindre ?
Alors, ça, c'est, il faut déjà faire évoluer la réglementation, parce que la réglementation est que toute l'eau qui pénètre dans un logement doit être irréprochable, doit être propre. C'est pour ça qu'on a de l'eau potable dans les toilettes. Mais aujourd'hui, en fait, on sait que l'eau de la douche, par exemple, ne contient pas de bactéries, hein, quand elle est pas stockée pendant longtemps, et donc on pourrait l'utiliser dans l'eau des toilettes. De même, quand on utilise de l'eau pour une machine à laver, en fait, on peut réutiliser plusieurs fois cette même eau. Et donc, ça me permet d'aller vers les processus industriels ou agricoles. C'est pareil dans l'industrie. Dans l'industrie, en fait, on utilise beaucoup d'eau pour refroidir ou pour faire du lavage. Souvent, on peut réutiliser plusieurs fois la même eau. Et dans l'agriculture, on peut aussi optimiser les processus de manière à utiliser moins d'eau, à rendre la goutte d'eau plus efficace et envoyer la goutte d'eau plus précisément vers la plante.
Je ne pointe du doigt personne, mais en France, il y a 3,5 millions de piscines privées. Nous sommes le deuxième pays en nombre de piscines par rapport à la taille de notre pays, de la population. Deuxième pays au monde après les États-Unis. Est-ce que, là encore, il n'y a pas un gros problème de comportement ? On n'a pas pris conscience ?
Alors ça, c'est effectivement un choix individuel des Français d'avoir recours à des piscines privées. Je fais juste un parallèle, hein. On a de plus en plus de piscines privées, notamment depuis la Covid-19, et on a de moins en moins de piscines publiques. On a des piscines publiques en fait qui se délitent, hein, qui vieillissent, puisque 70% des piscines publiques ont plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement, on sait qu'on a besoin d'accès au rafraîchissement. Donc on peut pas vraiment vouloir aux gens qui veulent avoir des piscines chez eux, parce que ça permet de se rafraîchir. Mais par contre, il faut aussi investir dans les piscines municipales, qui sont pour moi aussi importantes que les bibliothèques ou les théâtres. Parce que face aux chaleurs extrêmes qui se multiplient, compte tenu du nombre de Français qui ne partent pas en vacances, les piscines publiques ont un rôle à jouer pour limiter la fracture sociale. Tout comme d'ailleurs la baignade dans les fleuves, la baignade dans les rivières. Donc il faut aménager aussi, quand c'est possible, la baignade dans les cours d'eau pour qu'on puisse se rafraîchir et éviter les noyades.
Merci beaucoup Simon Porcher d'avoir été avec nous ce matin, co-directeur de l'Institut d'économie de l'eau, professeur à l'Université Paris-Dauphine et auteur de Nous sommes faits d'eau aux éditions Les Corps Conducteurs. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et on va parler de ça.
For sure.
And needs to be reformed, for sure. Ben, on va parler de ça, oui, je vous le dis. Et le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Et Pierre, il a du gaz ce matin, je vous le dis.
Pas tant que ça, hein, parce que nos réserves sont au plus bas.
On se retrouve dans quelques instants sur RMC. Et RMC Story, for sure. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
L'écho, c'est avec Pierre Rondeau.
RMC.
Le chiffre du jour.
Pierre Rondeau, notre économiste, 57% les réserves de gaz européennes ne sont remplies qu'à 57%. C'est le plus bas niveau observé depuis 2009. Et il y a une vraie inquiétude, Pierre, pour l'hiver prochain.
Oui, alors Rémi, je veux pas vous alerter, mais ce chiffre, 57%, est très inquiétant. En temps normal...
Vous m'alertez un peu quand même. Là.
Alors oui, mais je voudrais vous rassurer. Bon. Mais malheureusement, en temps normal, le stock de gaz des fournisseurs d'énergie comme Engie en France ou E.ON en Allemagne se situe autour des 74%. On est à 57%. C'est un niveau historiquement bas et normalement ce stock doit être constitué pendant l'été quand les foyers ne se chauffent pas pour ensuite tout revendre pendant l'hiver. Et 57% donc du jamais vu depuis 2009. La dernière fois que nous avons atteint un tel niveau, c'était en 2021, mais nous n'étions qu'à 60%. Aujourd'hui, c'est encore plus faible.
Comment l'expliquer, Pierre ?
Alors, deux choses évidentes. Le blocage du détroit d'Ormuz avec le conflit en Iran et l'arrêt des achats de gaz russe. Rajoutez à ça la demande asiatique qui explose, notamment chinoise et indienne, et le prix du gaz augmente. Et pendant l'été, pile au moment où justement les fournisseurs d'énergie ont le réflexe de constituer le stock pour l'hiver, pile au moment où en temps normal, les cours sont bas parce que la demande est faible. Mais là, vous bloquez le détroit d'Ormuz, par lequel transitent 25% des exportations mondiales de gaz, vous arrêtez d'acheter du gaz en provenance de Russie et vous faites face à la concurrence asiatique. Résultat, les cours augmentent et l'offre baisse. Les fournisseurs peinent à constituer leur stock.
Et cela pourrait avoir des conséquences négatives pour nous, Européens, très concrètes, dès l'hiver prochain.
Évidemment, hein, nous ne sommes pas prêts pour l'hiver. La faiblesse des stocks ne nous permettra pas de faire face à un hiver plus rugueux, plus difficile, plus froid. Selon Thierry Brault, professeur à Sciences Po et interrogé interrogé par BFM Business. Ce n'est pas une pénurie qui nous attend, mais une hausse de la facture couplée à une exigence de réduction de notre consommation. Il annonce déjà le retour des communications gouvernementales de sobriété énergétique.
Les fameux 19 degrés l'hiver à l'intérieur.
Et comme en 2023, rappelez-vous, je baisse, j'éteins, je décale. Ça vous avait manqué, bah ça risque de revenir dans quelques mois.
Merci beaucoup Pierre, on se retrouve après le journal de 8h et vous nous direz à quoi vont ressembler les nouveaux billets de banque de la zone euro. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, et cette punchline d'Emmanuel Macron devenue virale et iconique, for sure.
Emmanuel Macron devant la première ministre danoise cette semaine, mais il enflamme surtout les réseaux sociaux pour son faux show.
Et oui, comme quoi c'est pas la peine de faire de longs discours à Pauline, hein. Il suffit d'une expression bien placée pour marquer les esprits. Si le faux show d'Emmanuel Macron fait autant de bruit, c'est aussi parce qu'il l'a prononcé avec un accent français, puisque c'est bien connu, les présidents français parlent plutôt mal les langues étrangères.
Moi j'ai l'impression qu'on progresse pas beaucoup finalement.
Alors vous ne croyez pas si bien dire, en réalité on régresse et ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde entier, puisqu'il y a bien longtemps, nos chefs d'État à parler beaucoup, beaucoup plus de langues étrangères que ceux d'aujourd'hui. Prenez la célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, elle parlait 12 langues, wow. Parmi lesquelles le grec, l'égyptien, le latin, l'hébreu et même des langues disparues aujourd'hui, comme l'araméen, qui était la langue de Jésus-Christ.
Et en France, est-ce que nos rois parlaient plusieurs langues ?
Alors, ça dépend lesquelles, mais globalement, oui, hein, beaucoup. En tout cas, beaucoup plus que nos hommes politiques d'aujourd'hui. Dans l'éducation d'un roi de France, les langues étrangères, c'était essentiel et ça remonte à très loin. Prenez François Ier, roi de France au XVIe siècle, et bien il parlait églisé couramment l'espagnol, l'italien et bien sûr le latin.
Et le français était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui aussi.
Mais oui, à cette époque, le français c'était la langue des élites en Europe et en Russie. C'était d'ailleurs quasiment la langue officielle de la diplomatie. Tous les traités étaient écrits en français. En fait, à l'époque, c'était un peu l'anglais d'aujourd'hui.
Est-ce que Napoléon parlait plusieurs langues ?
Alors, Napoléon parlait beaucoup de langues, mais aucune correctement. Hein, ah. C'est assez spécifique, même pas le français. Il faisait des fautes d'orthographe partout, y compris à l'oral d'ailleurs. Il parlait corse, c'est sa langue maternelle, italien. Il avait appris l'allemand à l'école qu'il lisait. Et à la toute fin de sa vie, il s'est même mis à apprendre l'anglais, qu'il a fini par lire dans le texte, ce qui fait pas mal.
Plus récemment, est-ce que le général de Gaulle parlait des langues étrangères ?
Oui, alors de Gaulle avait un très bon anglais, hein, il avait passé la guerre à Londres, mais il avait aussi un excellent allemand, à tel point qu'en 1962, à Bonn, en Allemagne, de Gaulle prononce un discours intégralement en allemand, sans la moindre note. Mais globalement, il faut bien admettre que les rois parlent...
C'est de Gaulle en allemand.
De Gaulle en allemand.
Incroyable.
C'est
un peu inquiétant aussi.
Oui, c'est vrai que c'est...
Mais globalement, les rois parlent quand même plus de langues étrangères que les présidents, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Prenez la reine d'Angleterre, elle parlait un français quasiment parfait. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, parle le français, l'espagnol, l'italien et le portugais.
For sure. For sure.
RMC 7h29, les prévisions météo, c'est avec Charlène Villemer. Charlène, une bonne partie du pays est en vigilance canicule.
Oui, 43 départements le seront dès ce midi. Déjà 23 et 26 degrés près de la Méditerranée ce matin. Et la canicule continue de gagner le centre et le nord-ouest. Cet après-midi, on attend des pointes à 35-36 degrés, notamment 35 à Lyon, 35 aussi du côté de Bordeaux et de Marseille, 36 du côté de Nîmes et de Montélimar. Beaucoup plus frais au nord. Les seuls épargnés, ce sont le nord et puis le Grand Est, où on ne dépassera pas la barre des 35 degrés les prochains jours. Alors ce matin, quelques averses entre le Limousin et les Bouches-du-Rhône circulent. On a de la grisaille aussi sur le littoral aquitain. Cet après-midi, le ciel sera quand même plutôt bien dégagé au nord, du Cotentin jusqu'à l'Alsace. Et puis on attend des orages aussi du côté des Pyrénées, de la Côte d'Azur et puis des reliefs corses. Demain, ça va continuer de grimper. On attend des pointes jusqu'à 40 entre le Sud-Ouest et la Provence.
Merci Charlène. RMC, 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous. Des médecins vont devoir rembourser les primes qu'ils ont perçues, ces compléments de salaire versés par l'hôpital. Leur hôpital ont été jugés irréguliers par le Trésor public. Un nouvel épisode de forte chaleur s'installe en France avec 43 départements en vigilance orange à la canicule. Et une première médaille française au championnat d'Europe d'athlétisme hier en Angleterre.
Ils vont devoir rembourser des dizaines de milliers d'euros.
Une centaine de médecins contraints de rendre leurs primes. C'est leur employeur, le grand hôpital de l'Est francilien, qui leur réclame des primes et des compléments de salaire accordés par la précédente direction pour lutter contre la pénurie de soignants, mais qui ont été jugés irrégulières par le Trésor public. De quoi laisser les médecins contraints de rembourser dans l'incompréhension et dans la colère, Lucas Laubert.
Des primes accordées pour des heures supplémentaires.
Moi, je faisais jusqu'à 70 heures par semaine.
D'une part, pour les convaincre de rester face au manque de soignants, explique ce médecin souhaitant rester anonyme.
Il fallait assurer parce que sinon, il n'y avait personne pour prendre en charge.
Mais aussi par intérêt financier.
Ça me permettait d'assurer les besoins de base de ma famille. Ça me coûtait pour garder mon fils 1000 euros par mois parce qu'il n'y avait pas de place en crèche.
Il profite donc de ces primes jusqu'à ce que la nouvelle direction lui demande de rembourser ce qu'il a touché sur les deux dernières années. Nous n'avons pas eu d'autre choix, se défend le directeur dans un communiqué qui affirme que les décisions de son prédécesseur n'étaient pas réglementaires.
Moi, je me suis senti trahi.
L'hôpital lui réclame 45 000 euros.
J'ai signé un contrat, le travail était fait, et là, on me demande de rembourser sous des prétextes bidons. Je ne me suis pas enrichi, je ne suis pas cassus. Moi, les 45 000 euros sont partis chez la Nuno et le loyer. Je serais insolvable, de toute façon.
Une injustice, selon lui, que combat également Maître Delphine Krisch, l'avocate de plusieurs médecins.
C'est une situation inédite de rupture du pacte de confiance entre un employeur public et ses médecins. C'est d'une toxicité mais monstrueuse.
Malgré les tentatives de dialogue, la direction n'a pas pu contenir la vague de démission. 40% des radiologues ont par exemple quitté l'établissement.
De nouveaux départements placés en vigilance orange canicule.
Oui, 43 au total sont concernés. La chaleur qui gagne du terrain et dans les prochains jours, elle va aussi gagner en intensité. Ce sera pour demain, par exemple, 67 départements qui seront en orange. Le pic de chaleur est lui attendu jeudi. Des fortes chaleurs auxquelles s'ajoutent la sécheresse, les fleuves et les lacs et les cours d'eau sont à sec. Et cela a des répercussions importantes sur la production agricole, mais aussi sur la production électrique des centrales nucléaires. Célestin Abougère, il s'agit d'une situation jamais vue auparavant.
Ah oui, il manquait 15,6% de puissance nucléaire électrique dimanche. Un record depuis 2015 et la publication des premières données. 9 réacteurs fonctionnaient au ralenti. 3 étaient même à l'arrêt. En cause, la sécheresse et les vagues de chaleur successives qui ont réchauffé les cours d'eau et réduit leur débit. Des cours d'eau qui servent à refroidir les installations nucléaires. EDF est donc contraint de réduire son activité pour préserver l'environnement et ne pas réchauffer davantage les fleuves. Le groupe souligne que l'impact sur la production d'électricité est faible et que la France reste largement exportatrice vers nos pays voisins. Mais avec le changement climatique et les restrictions environnementales, 1,4% de la production d'électricité nucléaire est menacée d'ici 2035. EDF compte donc investir 8,7 milliards d'euros dans les 15 prochaines années pour adapter ses installations.
Célestin Bougère pour RMC. Le feu qui sévit depuis plus d'une semaine dans la Drôme, dans le massif du Clap, poursuit sa progression lente avec près de 400 hectares brûlés. Environ 500 pompiers sont toujours mobilisés. C'est une hausse qui va concerner 6 millions de ménages. Le prix du gaz va augmenter de 5,6% à compter du 1er septembre. La commission de régulation de l'énergie explique cette hausse par l'augmentation des prix du gaz sur les marchés. Et sachez par ailleurs que les niveaux des stocks de gaz européens atteints sont plus bas niveaux justement depuis 2009, conséquence du blocage du détroit d'Ormuz et de l'arrêt de l'achat de gaz naturel liquéfié russe.
Grégoire, le pape à la côte.
Ah oui, on peut même parler d'un engouement complètement fou pour la première visite de Léon XIV en France, prévue fin septembre. Les fidèles se sont rués sur la billetterie gratuite qui ouvrait hier à la mi-journée. 200 000 personnes se sont inscrites pour la messe en plein air sur la place de la Concorde et aux Champs-Élysées. Le Stade de France qui doit accueillir une grande veillée de prière réservée aux jeunes est déjà complet. Il aura fallu à peine plus d'une heure pour que les 80 000 places soient réservées. Alors il y a des heureux, mais aussi de nombreux déçus, Lou Garnier.
La veillée des jeunes autour du pape au Stade de France, Brianne en rêvait.
On est déjà en septembre avec mes amis pour aller prier. Ça a été déposé ce soir. Finalement, j'ai pas eu de place.
Pas de place. Pourtant, elle était connectée dès l'ouverture de cette billetterie gratuite.
C'était directement en liste d'attente. 16 millième, 14 000. 12 000, 10 000, 8 000. Et à partir de ce moment-là, ça a été un total ralentissement.
Une heure d'attente avant d'apprendre que les 80 000 places sont réservées, dont quelques-unes par Pauline, plus chanceuse.
J'étais ravie de les obtenir. Étant donné que j'ai aussi essayé d'avoir des places pour Céline Dion, j'avais un peu l'impression de revivre le moment, mais je suis bien plus contente d'avoir eu des places pour le pape que pour Céline Dion.
Courant septembre, ils recevront leurs places nominatives comme pour un concert, détaille-t-elle. Elle ne cache pas son excitation.
On est très contents parce que c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours. On a la chance que le pape se déplace à Paris, on va être des milliers de jeunes, ça va être un moment très fort, un vrai moment de cohésion.
Le tout chapeauté par le pape en personne, c'est un honneur pour Inès.
C'est un pape différent, plus moderne, qui c'est un pape qui est très apprécié par les jeunes, donc vraiment je suis très heureuse de voir ce pape-là.
Et pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, la liste d'attente est toujours ouverte, précise le diocèse de Paris.
La venue du pape en France, est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous allez aller le voir? Est-ce que vous comprenez cet engouement? Vous nous appelez au 3216. Et si votre enfant partait en colonie de vacances sans son téléphone portable?
Et oui, il existe depuis plusieurs années des séjours sans sans téléphone, qui permettent souvent d'ailleurs de mieux profiter et de mieux profiter de la nature également, comme dans le Gers. À Ramouzens, au centre L'Abeille Verte, une association propose des séjours 100% nature avec des enfants qui sont prêts à jouer le jeu, Alexandre Thibault.
En arrivant ici avant-hier, Luca a dû laisser son téléphone dans une boîte.
C'est compliqué de passer de beaucoup d'écran à aucun écran pendant un week-end et une semaine.
Les 6 préados de cette colonie de vacances ont accepté la déconnexion. Lola n'a que 12 ans, mais déjà une prise de conscience.
C'est juste qu'il faut que je me détache un peu des écrans. Parce que sinon, je veille jusqu'à 1h du matin, 2h.
Juste à côté d'elle, sac de randonnée sur le dos, Chloé savoure ses vacances sans être inondée de messages de ses parents.
Ils mettent une liste le matin souvent. Chloé, tu feras la vaisselle, tu rangeras le linge par exemple. C'est bien là de faire ça de soi-même en fait. C'est un poids en moins.
Des parents souvent inquiets de laisser leurs enfants seuls. Avec le téléphone du centre, ils peuvent s'appeler les mardis et jeudis uniquement. Loïka, la cofondatrice du centre.
Moi, je précise aussi souvent aux parents, si vous avez besoin de nouvelles, ce que je peux comprendre quand parfois c'est les premiers départs en colo, on veut des nouvelles, vous m'écrivez, je vous donne des nouvelles.
Le but, selon elle, permettre pendant 6 jours de se reconnecter à la nature.
C'est ce qui est intéressant et précieux pour nous aussi, de se dire, bah oui, en fait, t'entends la cigale, les oiseaux, que t'entends plus forcément quand t'as tes AirPods.
Certains jeunes reviennent même d'année en année dans ce centre pour goûter aux joies de la déconnexion.
Au championnat d'Europe d'athlétisme en Angleterre, Jimmy Gracie arrive auprès du podium du 5000 mètres, mais Étienne Daguinos décroche, lui, la première médaille française de la compétition. Elle est en bronze et l'intéressé n'a pas boudé son plaisir.
J'ai vu que j'ai essayé de tout le temps être à la bagarre, jamais décrocher. Et je savais que dernier 100 mètres, tout pouvait se passer. Jimmy nous l'a montré l'année dernière au championnat du monde, que sur un dernier 100 mètres, tout était possible. Donc, j'ai jamais rien lâché. Dernier 30 mètres, j'arrivais même plus à lever les jambes. Mais je suis allé la chercher au fond de moi-même, celle-ci. Et c'est une fierté immense. C'est ma première médaille internationale sur la piste. Honnêtement, ce soir, je suis le plus heureux du monde.
Et les championnats d'Europe d'athlétisme sont à suivre, bien sûr, sur RMC, avec nos envoyés spéciaux sur place et notre nouveau consultant Teddy Temgo, champion du monde et ancien recordman du monde du triple saut.
Grégoire, on termine avec le quintet.
Oui, ce sera sur l'hippodrome de Deauville à 18h30. Voici le pronostic de RMC. Le favori, c'est le 3 Double Up. L'outsider, c'est le 6 Fearless Cheetah. Le 3, le 6.
Merci beaucoup, Grégoire. RMC, 7h36.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et depuis ce matin, plus personne n'a le droit de vous appeler sans votre accord écrit et sans votre consentement. Je ne parle pas de votre ami ou de votre famille, hein. Je parle évidemment du démarchage téléphonique. Mais est-ce vraiment la fin de ces appels intempestifs? Cyril Cormier de Que Choisir Ensemble nous répond dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h41, c'est peut-être la fin d'un cauchemar quotidien. Ah, ce fameux appel intempestif depuis ce matin. Le démarchage téléphonique est interdit par défaut. En France, désormais, en théorie, plus aucune entreprise ne peut vous appeler sans votre consentement écrit et explicite. Les contrevenants risquent jusqu'à 75 000 euros d'amende, 375 000 euros pour une société. Mais les exceptions sont nombreuses et les plateformes basées à l'étranger, elles, restent hors de portée. Bonjour, Cyril Cormier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du plaidoyer à l'association Que Choisir Ensemble. Ce matin, si mon téléphone sonne et que c'est un démarcheur au bout du fil, qu'est-ce qui se passe?
C'est tout simplement un appel illégal. Ce genre d'appel, sans votre consentement explicite et écrit au préalable, est tout à fait illégal. Donc cette entreprise, vous pouvez la signaler sur la plateforme Signal Conso et elle sera tout simplement sanctionnée, sachant que l'amende, c'est 75 000 euros par appel pour une personne qui vous appelle, et 375 000 euros par appel pour l'entreprise.
Ce matin, j'ai un appel, un démarchage téléphonique, je n'ai pas donné mon consentement, je vais donc sur le site, vous n'avez dit...
Signal Conso.
Signal Conso, j'entre, je dis voilà, j'ai, très rapidement, j'ai été contacté par ce numéro, et c'est pour moi c'est illégal, mais qui va contrôler et qui va sanctionner cette entreprise?
Alors c'est effectivement l'enjeu de cette loi, hein, c'est que une loi ça suffit pas, il faut que derrière il y ait les moyens non seulement d'investigation hein, pour établir les faits de la fraude, mais aussi les moyens de justice pour sanctionner. Mais en tout cas la loi est là, elle donne un nouveau cadre et c'est un changement de philosophie important pour le démarchage téléphonique, puisqu'avant on était tous et toutes considérés comme consentants pour obtenir ces numéros de pour obtenir ces coups de fil. Or, on avait bien vu hein, que ça nous embêtait chaque jour.
Bah, Justement, Cyril, vous restez évidemment avec nous, mais Mickaël nous rejoint au 32-16. On va avoir un témoignage, voilà, très parlant et qui on va certainement tous se reconnaître dans le témoignage de Mickaël. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis Saint-Germain-en-Laye, on est en région parisienne.
C'est ça, exactement.
Et vous, Mickaël, vous n'en pouvez plus de ces appels.
Ah, mais carrément, franchement, c'est...
Alors, rapprochez-vous bien de votre téléphone. En parlant de téléphone, rapprochez-vous de votre téléphone, qu'on vous entende bien.
C'est 3-4 fois par semaine, c'est à des horaires pas possibles parfois, c'est 14h, 18h, jusqu'à 20h parfois. Des numéros qu'on connaît pas, mais moi, je reçois plein d'appels et je décroche à tout parce qu'on sait jamais. J'ai des enfants, j'ai des situations qui sont, voilà. Et honnêtement, c'est infernal, quoi. À chaque fois, parfois même quand je décroche, j'entends la sonnerie parce que c'est un centre d'appel
Même parfois des messages générés par l'intelligence artificielle.
Okay. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça aussi, effectivement. Ouais. Et systématiquement, c'est pompe à chaleur, réduction de facture d'électricité, soi-disant.
C'est ça. Mickaël, cette nouvelle loi qui entre en vigueur aujourd'hui, on en parle là avec Cyril Cormier de Que Choisir Ensemble, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses?
Franchement, j'y crois pas trop. Je demande à voir. Ça me réjouit, je suis content qu'elle soit là, mais j'y crois pas trop. Bah, et oui, moi, ce que j'aimerais bien savoir,
oui, Mickaël,
c'est une fois qu'on va sur, je crois que ça s'appelle Que Choisir, la plateforme, une fois qu'on dénonce sur la plateforme, comment on fait le suivi, comment on sait que la personne ou l'entreprise a effectivement été sanctionnée, parce que ça, je demande vraiment un suivi, moi, par rapport à ça.
Cyril Cormier, de Que Choisir Ensemble, c'est pas la plateforme, ça c'est l'association, la plateforme c'est, rappelons-le encore une fois, où je veux
signaler. Signal Conso.
Pardon ?
Signal Conso.
Signal Conso. C'est vrai ce que dit Mickaël. Moi, une fois que j'ai dénoncé, est-ce que j'ai un suivi? Est-ce que je sais si ça a marché ou pas?
Alors, c'est une plateforme qui est organisée par l'État français. Donc, c'est effectivement à l'État français de suivre les démarches et de s'assurer que les consommateurs seront bien informés et que le suivi sera fait. Mais effectivement, vous avez parlé de Que Choisir. C'est notre rôle aussi, nous, en tant qu'association de défense des consommateurs, que de vous accompagner dans les litiges. C'est ce qu'on a fait depuis 15 ans sur la question du démarchage téléphonique. Cette loi, d'ailleurs, elle est issue du travail que nous avons fait depuis tant d'années, mais aussi nous accompagnons les consommateurs, consommatrices dans la défense de leurs droits, et y compris, et c'était une grande partie des sujets sur lesquels nous accompagnons les utilisateurs, le démarchage téléphonique.
Je ne veux pas être négatif, Cyril Cormier, mais il y avait Bloctel qui existait. C'était la loi Hamon 2014. Il y a eu la loi Négalène, la loi CPF, l'encadrement des horaires. Là, on rajoute une nouvelle loi. Pourquoi celle-là marcherait alors que les autres n'ont pas fonctionné, très clairement?
C'est un peu une loi qui annule les autres, en fait, parce qu'elle change de philosophie. Avant, on était tous considérés comme consentants à obtenir les appels, à moins de se déclarer sur la plateforme Bloctel. Aujourd'hui, on est tous considérés comme non consentants. C'est-à-dire que de base, une entreprise ne peut pas vous appeler jamais, 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 à moins que vous ayez donné votre consentement écrit auprès de chaque entreprise qui vous démarche. Donc c'est un changement de philosophie. Là où je rejoins Mickaël, il faut être honnête, cette loi, elle a aucun impact sur les appels d'arnaque, de fraude, notamment qui proviennent des plateformes basées à l'étranger. Il n'y aura aucun effet puisque ça ne concerne que les appels de démarchage légal et ça ne concerne pas, bien sûr, tout ce qui se situe dans l'illégalité.
Il reste tout de même des exceptions que vous jugez problématiques, des trous dans la raquette, notamment sur les contrats en cours. J'ai un contrat avec telle société, elle pourra toujours m'appeler, elle.
Oui, par exemple, prenons le cas d'un fournisseur de téléphonie, par exemple, avec laquelle vous êtes engagé pendant plusieurs années. Ce fournisseur de contrat téléphonique pourra vous appeler pour vous proposer d'autres services qui doivent être en relation avec le contrat que vous avez. Oui. Mais tout ça est assez flou, donc peut-être l'entreprise pourra vous démarcher pour d'autres produits.
Pour un sous-traitant,
par exemple. Abuser un petit peu sur le contexte dans lequel il vous appelle. Donc il faudra être vigilant. Toujours bien noter le contexte dans lequel vous avez été appelé et pourquoi ça vous semble une fraude. Signaler sur Signal Conso, bien entendu, et puis vous rapprocher, pourquoi pas, d'une association locale Que Choisir auprès de chez vous pour vous suivre dans vos démarches sur ce litige.
Énorme trou dans la raquette, les appels à l'étranger. Quand une plateforme m'appelle depuis l'étranger, une société m'appelle depuis l'étranger, bah là, la loi marche pas.
Là, effectivement, la loi marche pas. Et du coup, il faut se rappeler la vigilance que l'on doit tous avoir quand on est appelé par un numéro de téléphone qu'on ne connaît pas, un coup de fil qu'on n'a pas sollicité. Il faut tout simplement jamais donner suite, ne pas donner ses informations personnelles, numéro de compte en banque, les mots de passe, oui, etc., etc., ni son adresse.
Jamais puis, personne ne vous demandera votre mot de passe.
Non.
C'est ce que nous
puis,
disent. Si, non, mais si c'est pas nos banques, mais c'est hyper important de le répéter. Jamais, on ne donne son mot de passe ou ses coordonnées bancaires au téléphone.
Effectivement, et si on a un doute, on rappelle son conseiller bancaire ou on rappelle son fournisseur d'électricité ou de gaz habituel pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec notre contrat.
Un dernier risque pointé, on est très concret ce matin, les cases que l'on précoche, enfin qui sont précochées, pardon, sur Internet et on valide.
Oui, alors bien sûr, que ce soit en ligne ou sur papier, il faut toujours faire attention à ce qu'on signe, à ce qu'on coche, etc. Il faut lire tout simplement ce qui est proposé, sachant que dans le cadre de la loi, le consentement écrit ne peut pas être pré-écrit par l'entreprise qui souhaite vous contacter. C'est à vous d'écrire à la main ou par email votre consentement.
Merci Cyril Cormier, directeur plaidoyer à l'association Que Choisir Ensemble. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Sur RMC, RMC Story. Merci également à Mickaël. Et je vous le rappelle, les appels au 32-16 ne sont jamais des appels intempestifs. Pardon. Nous les prenons avec grand plaisir. RMC, 7h40, dans un instant, le portrait du jour avec Clara Gabillet. On parle de qui, Clara ?
Une ancienne actrice qui gagne plus sur le compte, sur le site OnlyFans que pour son rôle dans Harry Potter tout en restant habillée.
Ah bon, à tout de suite sur RMC et RMC Story. Grand bien lui en face.
RMC, Apolline Matin.
RMC 7h50, le bonus RMC de Charlène sur TikTok. Les chansons de Taylor Swift, c'est fini pour Donald Trump.
Et oui, cette fois, la chanteuse américaine lui coupe le son. La semaine dernière, le président des États-Unis a publié une vidéo de sa femme et de lui devant un feu d'artifice avec ce titre, August, une énième pique en légende. Je suis sûre que Taylor Swift va adorer qu'on utilise sa musique. Apparemment non. Quelques jours plus tard, l'audio disparaît. Et depuis, près de 10 chansons ont été supprimées des vidéos du compte TikTok de la Team Trump. Droit d'auteur ou guerre silencieuse, la chanteuse, elle, n'a pas réagi. Le clash entre l'occupant de la Maison Blanche et la superstar ne date pas d'hier. Donald Trump tire régulièrement sur Taylor Swift via ses réseaux sociaux. Même le jour de son mariage, il a remplacé Just Married par Trump et votre président. Pas de réaction non plus côté Trump. La musique de Taylor Swift, elle, reste accessible pour le perso.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h52 tout juste. Le portrait du jour ce matin, Clara Gabillet. Vous nous présentez Jessie Cave, une actrice qui a joué dans Harry Potter et qui est désormais une star de la plateforme OnlyFans.
Elle est bien loin, la maison Gryffondor, pour celle qui était Lavande Brown à l'écran dans l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang-Mêlé. Ranger la baguette de sorcier, oublier sa relation avec Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter. Tellement loin, tout ça, que la franchise lui interdit aujourd'hui de participer aux événements liés à la saga.
Car Jessie Cave est passée de Poudlard à OnlyFans.
Ouais, l'actrice britannique de 39 ans s'inscrit l'an dernier sur ce site qui propose des contenus dits exclusifs. Enfin, les utilisateurs payent un abonnement et accède à des photos, des vidéos, le plus souvent à caractère érotique, même carrément pornographique. Et c'est pour ça que les équipes d'Harry Potter ont préféré ne plus l'inviter.
Pourtant, sur son compte, il n'y a aucune nudité.
Non, elle est tout le temps habillée, Jessie Cave. Elle publie des vidéos dans lesquelles elle brosse ses cheveux, une longue crinière châtain au reflet roux qu'elle met en scène. Ils sont le personnage principal, dit celle qui assume ce fétichisme, hein, un peu comme il existe pour les pieds. Résultat, 20 000 $ en une seule journée et plus d'argent en une seule année que durant toute sa carrière d'actrice. Drôle de reconversion, vous me direz, mais Jessica F, c'est une débrouillarde. Hein. Passer la folie Harry Potter, plus de tournage, elle essuie les refus. Alors, il faut se remettre sur pied, trouver d'autres sources de revenus pour faire vivre sa famille. OnlyFans m'a sauvé la vie, dit cette mère de 4 enfants. Jessica F a connu les difficultés, hein, notamment le décès de son frère. Elle ne sait pas combien de temps son contenu plaira sur OnlyFans, consciente qu'un jour, les abonnés voudront sûrement en voir un peu plus. Hein. Mais nul doute qu'elle saura se renouveler. Jessica F a plus d'un tour dans son sac.
Merci beaucoup Clara Gabillet, RMC 7h53. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC, dans vos villes.
Et on vous parle ce matin d'éducation. Des milliers de villages subissent des fermetures de classes. 3742 classes fermées dans les écoles primaires pour la prochaine rentrée scolaire en septembre. Marion Gauthier a rencontré le maire de Tincourt-Boucly. C'est un village de la Somme qui se bat pour son école et pour garder des jeunes dans nos campagnes.
On va tourner à gauche là-bas.
Plein d'énergie et de fierté, Vincent Morgan déambule dans son village, sur la route.
Assez peu de circulation.
Au milieu des champs, 380 habitants. Là, on commence à entendre des cris d'enfants. Ça, c'est un son qui est important pour les villages.
Très important parce que c'est la vie. Et puis, c'est aussi une activité économique d'avoir une école, d'avoir des gens qui y travaillent. C'est ce qui nous irrigue. Voilà. Et les bus arrivent maintenant chercher les enfants pour la pause méridienne.
Les bus, des parents et des grands-parents arrivent devant les grilles vertes. La fermeture d'une des 5 classes à la rentrée prochaine inquiète.
On pense pour bien-être des enfants. Ça va obliger de faire plusieurs cours dans une seule classe. On ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi on ferme des classes? Il n'y a pas assez d'enfants, Monsieur Morgan.
Dans nos villages, on a une population qui est plus vieillissante. Donc, il faut qu'on arrive à attirer des nouvelles familles. C'est ce qu'on essaye de faire. Je tiens le pari avec Christine qu'on va en rouvrir une.
Ah bah alors,
on parie là-dessus.
On parie.
Mais je vais gagner. On va gagner.
Il faudra bien, car la municipalité venait de lancer des travaux d'extension de l'école.
On va arriver au CM1, CM2. Et là, on rentre dans la partie chantier. C'est quoi, vous êtes les plaquistes?
Ici, ça aurait dû être quoi?
Ça aurait dû être la nouvelle salle de motricité. L'investissement coûte 350 000 euros. C'est le budget de 4 ou 5 années. C'est un investissement, c'est un peu le pari de la commune de Tincourt-Boucly sur l'avenir.
Un pari qui paie. Le maire souligne les prix de l'immobilier qui remontent, les ventes de biens plus rapides. La commune peut accueillir, insiste Vincent Morgan, auprès d'une jeune maman installée ici depuis 3 ans.
Nous, on a un petit bébé, mais j'aimerais bien aimer qu'il ait d'autres copains. Et c'est vrai que dans le village, on n'est pas beaucoup avoir des enfants. On a fait de la pub, faut venir. Il y a beaucoup de maisons à vendre d'ailleurs, alors venez.
C'est une maison récemment vendue à des jeunes qui vont arriver. Ça, c'était l'ancien café. Et on vient de passer devant l'ancienne boucherie. Tout est ancien. Le petit commerce dans les villages ayant beaucoup de mal à vivre correctement, ce qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on appelle un drive rural.
Que les commandes passées à des grandes surfaces aux alentours soient apportées ici, sur la place du village.
Toujours avec cette question de lien, parce que c'est important que les gens puissent se rencontrer.
Quand on dit que les campagnes françaises se vident et vieillissent...
C'est certainement pas une fatalité, c'est une question de choix politique.
Et vous, ça fait combien de temps que vous vous battez pour ça?
J'en suis à ma 31e année d'élu municipal, et au risque de paraître un peu têtu et obstiné, j'y crois toujours. L'humain doit toujours primer.
L'humain et l'enfance en particulier. La mairie développe le périscolaire, une garderie, un centre de loisirs. Avec le vieillissement, certains ont moins d'envie, mais nous, lance Vincent Morgan, on ne veut pas mourir.
Merci Marion Gauthier. Dans un instant, la météo avec Charlène Villemer, le journal de 8h, et juste après, l'écho avec Pierre Rondeau.
Oui, les nouveaux,
des gros sous.
Là encore des gros sous, hein, les nouveaux billets, les nouveaux bifetons de la zone euro, à quoi vont-ils ressembler? J'ouvre le tiroir caisse dans un instant.
Avec plaisir, dans un instant. Donc, Pierre Rondeau sur RMC, le journal de la météo, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Mais tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Clément, préparez-vous à souffrir de la chaleur aujourd'hui.
27 degrés déjà ce matin à Nice, 25 degrés à Orange. Le pic de chaleur est attendu ce jeudi et la sécheresse, elle, défigure la nature. Marseille, face à une urgence dans ses rues, la consommation de crack. La mairie réclame l'aide de l'État et les habitants, eux, sont à bout. Et le nageur français Maxime Grousset à la recherche de son premier titre européen ce soir sur le 50 mètres papillon.
Il est tout juste 8h et une nouvelle journée caniculaire débute en France.
Et Charlène Villemer, vous nous l'avez dit au début de ce journal, 43 départements sont en vigilance orange aujourd'hui, du Finistère à la Corse. Et demain, cette vague de chaleur va encore gagner du terrain.
Et elle va s'étendre dans 67 départements cette fois-ci. 36 à Nantes, 37 à Bordeaux et des pointes à 40 degrés entre le sud-ouest et la vallée du Rhône. Un dôme de chaleur s'installe sur une majorité du pays. Le pic, lui, il est attendu jeudi, notamment à cause du phénomène des nuits tropicales. Ce soir, demain, on sera 3-4 degrés au-dessus des normales par endroit. Par exemple, en Île-de-France, en temps normal, il fait entre 14 et 16 degrés le soir. Là, on sera plutôt autour des 20-21 degrés de la nuit, donc de la façade ouest vers la vallée du Rhône, en passant par la région francilienne. Les sols restent chauds et l'air donc étouffant. Seuls les Hauts-de-France et une partie du Grand Est seront épargnés par cette cinquième canicule. Le thermomètre ne dépassera pas la barre des 35 dans le secteur. Partout ailleurs, la chaleur sera écrasante avant le retour d'un vent de nord-ouest samedi.
Charlène Villemer, preuve de cette chaleur, il fait déjà 27 degrés au Luc dans le Var, à Nice, 24 degrés à Bourges dans le Cher. Notre envoyé spécial RMC Antoine Audion a rencontré ce matin des commerçants sur le marché obligés de s'adapter face à cette chaleur.
On n'a pas le choix de faire avec, ça va finir par nous tuer cette chaleur. Ah ben nous sur le marché c'est très difficile, puisque ben les personnes, ben vous voyez, comme notre client là qui est là, il sort très tôt. Nous il faut qu'on se lève encore plus tôt.
Au lieu de 7h, ça sera peut-être 6h30, puis on va boucler vers 11h. La chaleur, l'inconvénient c'est que tout le monde souffre, le matériel souffre, la marchandise, on veut assurer une qualité et puis une fraîcheur des produits. Là c'est pareil, on n'est pas en supermarché, donc on travaille en plein air, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis le personnel également souffre.
Il est très fatigué, à la fin du marché on n'en peut plus. On s'adapte, on n'a pas le choix. On a besoin de travailler, donc on s'adapte.
Tendu ce jeudi.
Et autre conséquence de cette canicule, Clément, les réserves d'eau sont dans le rouge.
Près de 2 nappes phréatiques sur 3 sont sous les normales, c'est ce que nous apprend le bureau de recherche géologique et minière. En cause, Célestin Bougère, des semaines de chaleur et un déficit de pluie qui mettent les réserves d'eau sous pression.
Et oui, près de 70% de déficit de pluie en juillet, 2 vagues de chaleur le mois dernier. Résultat, la quasi-totalité des nappes phréatiques ont des niveaux en baisse. Les nappes du Limousin et de la Champagne sont les plus touchées. Celles de la Dordogne ont déjà dépassé le niveau le plus bas jamais enregistré. Une situation qui risque de ne pas s'améliorer, d'après Nicolas Pédron du Bureau de recherche géologique et minière.
Les modèles que nous, on utilise, nous disent qu'à un horizon 3 mois, la situation risque de pas forcément s'améliorer. Donc là, effectivement, à part faire des économies d'eau, il n'y a pas vraiment d'alternative à la situation actuelle.
Et justement, plus de 2 départements sur 3 sont soumis actuellement à des restrictions d'eau, de l'interdiction d'arroser son jardin ou laver sa voiture, jusqu'à l'interdiction des prélèvements qui ne concernent pas la santé, la sécurité civile, l'eau potable dans les départements au plus haut niveau d'alerte.
Célestin Bougère, l'incendie dans la Drôme toujours pas fixé, 400 hectares ont été parcourus par les flammes hier, 600 pompiers toujours mobilisés depuis plus d'une semaine. En revanche, l'incendie en Lozère, lui, est fixé.
RMC 8h03, nouveau signe de réchauffement diplomatique entre Paris et Alger.
Les 2 narcotrafiquants les plus recherchés en France, interpellés il y a quelques jours en Algérie, sont actuellement sous les verrous. Une annonce, Romain Cluzel, saluée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Une arrestation sur mandat d'arrêt de la justice française, puis une détention provisoire pour les 2 narcotrafiquants. Tout cela est un signal positif, estime le député PS Laurent Lardy. Pour le président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée, une telle coopération aurait été impossible il y a un an lorsque les tensions diplomatiques entre les 2 pays étaient au plus fort.
C'est un signe du dégel qui est en cours, c'est aussi un signe de la qualité de la coopération, parce que interpeller ces individus et les mettre sous écrou était sans doute pas une affaire évidente. Et aujourd'hui, on a la démonstration qu'en fait, cette relation, elle fonctionne très bien techniquement et politiquement.
Pour autant, difficile à ce stade d'envisager une extradition vers la France de ces 2 narcotrafiquants. Aucun accord n'existe entre les 2 pays et cet épisode ne marque pas la fin des tensions diplomatiques. Plusieurs sujets restent sensibles entre la France et l'Algérie, notamment concernant le journaliste Christophe Glaise, détenu depuis plus d'un an en Algérie.
La consommation de crack explose à Marseille.
La mairie appelle l'État à la rescousse et réclame un plan d'urgence contre la drogue. Et Anna Jojard, association et habitants, eux, dénoncent une situation devenue hors de contrôle.
Dans les rues près de la gare Saint-Charles, on retrouve des seringues abandonnées sur les pas de porte.
C'est catastrophique.
Marilyn habite le quartier depuis 30 ans. Elle côtoie les consommateurs au quotidien.
Elle reste la nuit sur mon palier d'escalier. La semaine dernière, systématiquement, vers 1h du matin, 2h du matin, ça sonne. Mais je sais que c'est eux, en fait. Hein. Voilà, c'est pénible. Moi, de toute façon, je vais partir. Hein.
Pour alerter les autorités sur la situation que vivent ces habitants, Antoine a lancé une pétition.
Il y a tout le temps quelqu'un en train de faire de la surveillance ou en train de consommer. Nous, on voit littéralement des gens en train de mourir sur le pas de notre porte. C'est des gens qui sont très pauvres, qui sont abandonnés, et on aimerait bien qu'ils soient pris en charge.
Les associations aussi constatent une vraie augmentation de la consommation de drogue dans l'espace public.
Aujourd'hui, c'est une crise humanitaire, hein, quasiment à laquelle on fait face.
Marianne Poisson est la coordinatrice du dispositif Tempo, créé en février pour fédérer sur ce sujet le milieu associatif, les hôpitaux et les institutions.
Enfin, le premier problème, c'est la question de la grande précarité. C'est pourquoi les personnes se retrouvent à la rue. C'est parce qu'elles n'ont pas accès à l'hébergement, à de la mise à l'abri, etc.
Face à ce constat, la mairie en appelle aujourd'hui à l'État. Anthony Gonsalves est adjoint à la santé.
Je rappelle qu'il y a eu un plan à Paris pour prendre ce problème à bras-le-corps. Nous réclamons un plan de même ampleur pour la deuxième ville de France.
Pour l'instant, la ville n'a pas encore eu de réponse de la part du gouvernement.
Fini les appels intempestifs. La loi contre le démarchage téléphonique auprès des particuliers entre en vigueur aujourd'hui. Désormais, les démarcheurs ne pourront plus contacter les consommateurs comme bon leur semble. Les États-Unis débloquent plus de 15 millions de dollars pour aider la Colombie, victime hier d'un puissant séisme faisant plus d'une centaine de morts et des dizaines de blessés. L'état d'urgence a été décrété.
RMC 8h06, demain, le soleil a rendez-vous avec la lune.
Et oui, une éclipse solaire, phénomène rarissime en France, 27 ans après la dernière en 1999. Mais pour avoir les yeux rivés au ciel, une seule condition, des lunettes homologuées. Même quelques secondes sans protection peuvent être dangereuses, Inès Zegloul.
Un brin d'appréhension dans les cabinets d'ophtalmologie, celle de ne peut-être pas avoir assez répété les consignes. Mettez des lunettes spéciales Eclipse, ne les retirez pas.
Et si elles n'ont pas une qualité de filtration extrêmement importante, on a des soucis.
Flashback, il y a 27 ans, le 11 août 1999, le docteur Orso se souvient, il est midi, et pourtant l'obscurité tombe. Quelques heures plus tard, à peine, les urgences ophtalmologiques sont assaillies. Plus d'un millier de consultations. Certains me disaient avoir une irritation à l'œil, ça les picotait, se rappelle-t-il. Et parmi eux, près de 150 patients présentent une brûlure de la rétine.
Des taches dans le champ visuel, ça va déformer l'agencement des cellules. Une ligne droite ne va plus être vue droite, mais gondolée. C'est irréversible, oui, vous avez une destruction d'un tissu nerveux qu'on ne sait pas réparer.
Alors cette année, ils croisent les doigts. Si vous n'avez toujours pas trouvé de lunettes, d'ici demain dans les pharmacies, chez les opticiens...
On espère qu'il n'y aura pas de catastrophe.
Eh bien, ne regardez pas le ciel.
Hier, Clément, Léon Marchand ne s'est pas éclipsé, mais aujourd'hui, on espère bien que d'autres vont faire pareil. Nouvelle chance de médaille française.
Oui, notre leader espère les imiter ce soir en finale du 50 mètres papillon. Maxime Grousset, qui revient d'une blessure, aura le deuxième meilleur temps de la finale après être passé tout près de son record de France hier, Julien Richard.
Oui, un centième seulement du chrono qui lui avait offert le titre mondial l'été dernier, presque impensable il y a deux mois quand sur un banal exercice en musculation, il se fracture le métatarse du pied gauche.
En fait, il s'est blessé le matin, ça a été dur l'après-midi et le lendemain, c'était fini.
Son entraîneur Michel Chrétien ne l'a jamais vu paniquer, au contraire.
Et pour lui, c'était un challenge, toutes les semaines, il était content. J'ai passé une radio, j'ai cicatrisé 2 centimètres, yaouh, en fait, lui, il voyait quelque chose de bien, quoi. Là, c'est la joie et la bonne humeur de Max.
Le pied immobilisé pendant près d'un mois, Maxime Grousset a tout de même pu continuer à nager, mais avec les bras seulement, et il en a profité pour explorer d'autres domaines.
J'ai fait plus de yoga, plus d'imagerie mentale, et ça m'a apporté, je pense, de la sérénité.
Éternel optimiste, il y a même trouvé du positif.
J'ai réappris à nager quand j'ai recommencé, et c'était un peu agréable. Je sentais que je progressais comme un enfant, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours, je me sens mieux.
En se présentant diminué derrière les plots, il a accepté de prendre aussi le risque de se faire battre.
Je suis prêt, ouais, je suis prêt à être troisième, après je suis prêt à être premier aussi.
Épousé par le public français, Maxime Grousset pourrait décrocher ce soir son premier titre européen.
Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Donald Trump vole au secours de Gianni Infantino. Selon lui, la FIFA commettrait une terrible erreur si elle le remplaçait. Il parle d'un homme formidable qui vient de présider la Coupe du Monde la plus réussie. Le patron de la FIFA, candidat à sa succession, est vivement critiqué après le projet avorté d'ouverture à des investisseurs privés. Sur les terrains, l'OL doit absolument s'imposer ce soir pour espérer devrait jouer les barrages de la Ligue des Champions. Match retour du troisième tour préliminaire ce soir face au Sparta Prague. À l'aller, ils se sont inclinés 2-1. Coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC.
Merci beaucoup Clément. Prochain journal, ce sera à 8h30. Alicia est avec nous au 32-16. Bonjour Alicia.
Bonjour Rémi.
On est dans le Pas-de-Calais.
Oui, c'est ça. Donc nous aussi, on a de la chaleur.
Oui, c'est vrai. Un peu moins qu'ailleurs pour cet nouvel épisode de canicule, mais c'est vrai qu'il fait quand même très chaud. Alicia, vous voulez nous parler de ce sujet qu'on évoquait ce matin dans la Vienne, la maire d'une commune qui a décidé de prendre un arrêté contre les aboiements intempestifs des chiens. Amende de 135 euros pour le propriétaire qui ne ferait rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Alicia ?
Alors moi j'étais d'accord avec elle parce que pour moi le souci c'est l'éducation des gens. On n'éduque plus nos animaux, je le vois parce que je suis bénévole dans une association. Mmh. Au refuge on a des chiens qui sont abandonnés parce qu'ils font des bêtises. Sauf qu'un chien ça s'éduque. Mmh. Et par contre j'étais vraiment pas d'accord avec la maire quand elle a parlé du collier.
Ouais, parce qu'elle dit que la solution que... ça serait le collier anti-aboiement. Ouais.
Et non pas du tout. Et moi j'en ai déjà parlé avec plusieurs éducateurs canins.
C'est quoi un collier anti-aboiement ? Parce que c'est quoi ? C'est des ondes ? C'est une décharge électrique ? C'est quoi ?
C'est une décharge électrique.
Et quand le chien aboie, quand on lui laisse collier, ça lui envoie une petite décharge pour le dissuader de recommencer, c'est ça ?
C'est ça, et ça va être complètement contre-productif, puisqu'en fait, chez certains chiens, le cerveau va lui dire « c'est bien ». Donc en fait, ça va le faire aboyer. Donc déjà, c'est de la torture, parce que vous, vos enfants, s'ils sont pas sages, vous n'allez pas leur mettre des joutes électriques.
Non.
Et pour les chiens, c'est pareil. Moi, j'ai pris un chien justement maltraité. Au début, elle aboyait beaucoup, c'est juste de l'éducation. Il faut s'en occuper au tout début, dès qu'ils aboient, leur dire non. Et maintenant, elle le fait plus.
Merci pour votre témoignage, Alicia, qui était avec nous depuis le Pas-de-Calais au 32-16. Vous continuez à nous appeler. RMC, il est 8h11, ne nous appelez plus des héros. Jeudi, les 9 syndicats de sapeurs-pompiers appellent à la grève nationale et à manifester devant le ministère de l'Intérieur. Ils réclament de l'argent, des recrutements, du matériel. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, est avec nous dans un instant sur RMC, RMC Story. Quelle sera la réponse du gouvernement aux sapeurs-pompiers ? Quelle réponse également apportée par le ministère de l'Intérieur à Gérald Darmanin, le garde des Sceaux qui pointe du doigt policiers et gendarmes dans le traitement des affaires de violences sexuelles sur mineurs. Les réponses donc du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h15. Jeudi, les pompiers seront en grève. Les 9 organisations syndicales appellent à se rassembler devant le ministère de l'Intérieur. Ils refusent que le mot héros serve à masquer, c'est ce que disent les pompiers, le délitement de la sécurité civile. Ils réclament de l'argent, des recrutements, du matériel. Bonjour Jean-Didier Berger.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. On va parler donc des pompiers, on va parler également de Ceuta et de la crise migratoire qui déchire l'Europe. Mais d'abord, tout d'abord, comment réagissez-vous à cette lettre de Gérald Darmanin à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur ? C'est un courrier de 12 pages où le garde des Sceaux expose les remontées des parquets généraux des magistrats concernant le traitement des violences sexuelles sur mineurs. Des milliers de dossiers fantômes bloqués dans les commissariats et les gendarmeries, c'est ce que dit ce rapport. Des rapports, donc des plaintes jamais transmises à la justice. Est-ce que vous avez le sentiment que Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, se défausse sur vous, sur l'Intérieur ?
Non, il y a un travail conjoint de Gérald Darmanin et de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, pour faire en sorte que les problèmes structurels, au-delà de la bonne volonté des équipes du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, que ces problèmes structurels puissent être levés. Tout le monde a compris qu'il y avait des difficultés. Et donc moi, je regrette que ce document de travail interne, qui a vocation à être... dans le cadre d'un travail réitératif, contradictoire entre les différentes équipes, soit sorti, parce que il ne rend pas compte de l'intégralité de ce travail qui est encore en cours. Et donc, une fois que l'analyse sera faite, une fois qu'on aura tous les éléments, on pourra sortir toutes les solutions, parce que c'est ça qui nous intéressait, d'être orienté pragmatiquement et avec rigueur vers les solutions. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français.
Je vais caricaturer un peu. Il n'empêche que dans ce courrier, encore une fois, ce sont les après l'affaire Liana. Voilà, c'est ça qui a tout déclenché.
Bien sûr.
Lorsque les magistrats se sont rendus où on demandait des renseignements auprès des services d'enquête, de gendarmerie et de police, il n'empêche que lorsqu'on voit leur rapport, on a l'impression, je caricature, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas du tout du côté des policiers et des gendarmes.
Écoutez, je pense que le rapport, moi je l'ai lu, donc il faut le prendre dans son intégralité. Et une fois qu'on l'a lu, on voit que d'abord il y a quelque chose qui est souligné, c'est la bonne volonté de toutes les équipes, celle du ministère de l'Intérieur et celle du ministère de la Justice. Ensuite, il y a des difficultés informatiques, des difficultés procédurales, des difficultés techniques, des difficultés sur beaucoup de sujets qui méritent d'être traités. Ça, on le sait, on le savait, et donc ce qui nous intéresse, c'est surtout de régler ces difficultés, et tout le reste, c'est de la polémique inutile.
Il y a un autre gros dossier sur le bureau du ministre de l'Intérieur, celui des sapeurs-pompiers. Ils sont en grève, je l'ai dit, après-demain, jeudi, dans deux jours, donc ils vont manifester sous vos fenêtres. Est-ce que vous allez recevoir les représentants syndicaux des sapeurs-pompiers ?
Il y a un dialogue permanent qui est mené avec les représentants des organisations syndicales. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, beaucoup de moyens d'abord des collectivités locales, parce que je rappelle que ce sont les collectivités locales qui sont en charge de soutenir, d'aider nos pompiers qui font un travail remarquable, notamment les collectivités, les départements, au premier rang de ces collectivités.
Qui râlent aussi, qui disent qu'ils peuvent pas tout faire.
C'est pour ça qu'il faut avancer le plus sereinement possible. Il y a eu un Beauvau de la sécurité civile, il y a des conclusions qui doivent en être tirées, mais je voudrais quand même rappeler que dans notre pays, il y a aussi beaucoup de moyens qui ont été mis sur la table ces dernières années, en particulier ces trois dernières années, où on a purement et simplement doublé le nombre d'engins aériens à disposition des pompiers.
Quand vous entendez quand même des sapeurs-pompiers, c'était le cas la semaine dernière, il y a encore 15 jours sur RMC, sur l'antenne d'RMC, un sapeur-pompier qui nous appelait pour témoigner en Gironde et qui nous disait « Imaginez que par exemple dans nos camions d'intervention, nous n'avons même pas de GPS et parfois pas de carte ». Comprenez que quand même,
Tous
ceux qui entendent ce type de témoignages sont quand même stupéfaits.
Je comprends qu'on puisse se dire ça quand on entend ce type de témoignage. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que vous m'invitez. C'est pour mettre les choses en perspective. Il y a 500 nouveaux engins qui ont été livrés ces derniers mois, ces dernières années, sur le terrain. Parce que la lutte contre les incendies, c'est les moyens aériens. Et c'est beaucoup aussi, et surtout, les moyens au sol. Donc beaucoup de camions neufs qui restent encore. Vous savez, c'est comme dans toutes les flottes de véhicules. Je suis sûr que vous prenez toutes les entreprises de France, vous avez des véhicules qui sont neufs, puis des véhicules qui sont plus anciens. Mais si, évidemment, on ne regarde que le véhicule le plus ancien, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce véhicule ? Donc moi, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses en perspective. On a la chance d'avoir dans notre pays des conditions exceptionnelles de sécurité civile parce qu'on a mis beaucoup de moyens sur la table.
Pourquoi les pompiers sont en grève dans ce cas ?
Qu'il faille encore certainement faire des progrès, on n'en disconvient pas, on peut toujours s'améliorer. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont doublé le nombre d'engins aériens ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui livrent des nouveaux engins au sol par centaines ? Je ne crois pas. Et c'est parce qu'on a ce niveau de soutien, ce niveau de moyens, qu'on arrive beaucoup plus que dans d'autres pays européens comparables à éteindre les incendies plus vite et à faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus limités. Et c'est pas parce qu'on a une saison exceptionnel en matière d'incendie qu'il faut ignorer tout ce travail et tous ces moyens qui ont été mis en place.
Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. L'immigration, la crise migratoire, l'épisode que nous venons de vivre à Ceuta, cette enclave espagnole au Maroc. L'Italie, le Danemark demandent la suspension de l'Espagne, de l'espace Schengen. Édouard Philippe propose un verrou Schengen. Qu'est-ce que la France soutient ?
D'abord, je pense qu'il faut bien remettre aussi les choses en perspective. Il y a eu une réunion informelle de tous les ministres de l'Intérieur européens.
La semaine dernière.
Et à l'issue de cette réunion informelle, qui doit être prolongée par un conseil formel le 1er octobre prochain, eh bien, tout le monde s'est accordé à saluer d'abord la gestion de l'Espagne. Parce que il ne faut pas qu'on se laisse diviser par les ennemis de la France et les ennemis de l'Europe qui exploitent les images qu'on a vues, qui sont bien réelles, pour essayer de dire que rien n'est fait.
Qui sont les ennemis de la France et de l'Europe ?
Écoutez, c'est pas très difficile. Vous les connaissez aussi bien que moi. Ceux qui ont intérêt à faire qu'on se divise entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut rester très serein. Parce que d'abord, aucune traversée.
L'Italie et le Danemark, personne ne les force à réclamer l'exclusion de l'Espagne de Schengen.
Aucune traversée vers le continent ne s'est faite. 70 000 des 72 000 migrants qui sont arrivés sur le territoire de Ceuta sont repartis. De même.
Et 171 sont morts.
Oui, bien sûr, il y a eu des drames, j'allais justement y venir. Et c'est pour ça qu'il faut aborder les choses avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de responsabilité, parce que c'est pas en étant divisé, en commençant à se battre les uns contre les autres, qu'on va régler le problème de l'immigration irrégulière.
C'est pourtant ce qui se passe. À l'heure actuelle, l'Europe est divisée.
qu'il y ait des tentatives, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait à un moment donné différentes solutions qui soient abordées, c'est une évidence et vous l'avez rappelé. Mais je crois que au fond, une fois qu'on a fini de discuter entre nous, tout le monde s'aperçoit que l'intérêt de tous les pays, y compris de ceux que vous avez cités, c'est de rentrer dans une forme de solidarité très puissante pour faire en sorte que on puisse renforcer nos frontières extérieures. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits. La directive retour qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces en la matière. Je regardais ce qui se passait aussi du côté de la Manche. On a divisé quasiment par 3 le nombre de traversées entre l'année dernière et cette année. Donc, c'est pas parce qu'il y a des problèmes qui sont très importants, des problèmes qui sont encore devant nous compte tenu de tous les conflits qu'il y a dans le monde et du changement climatique, qu'il faut ignorer les résultats que nous sommes en train d'obtenir.
Un dernier mot sur Christophe Glaize, toujours détenu en Algérie.
Vous avez vu qu'il y a un dialogue avec l'Algérie qui nous a permis d'obtenir de bons résultats en matière de lutte contre les trafiquants de drogue. Ce dialogue, il doit se poursuivre pour nous permettre d'obtenir d'autres résultats dans d'autres matières. Mais je peux vous dire que le gouvernement de la France et la France sont toujours aux côtés des Français.
Merci Jean-Didier Berger d'avoir été avec nous, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. RMC 8h29, l'écho avec Pierre Rondeau. Et Pierre, nous allons avoir de nouveaux billets.
Oui, hein, la Banque Centrale Européenne vient de révéler les 10 modèles de billets qui pourront entrer en circulation dès 2028. Et sur ces 10 modèles, deux grandes thématiques. La culture européenne avec des figures majeures des arts et de la science comme Maria Callas, Beethoven ou Marie Curie. Et la nature avec des fleuves et des oiseaux, du martin pêcheur jusqu'à la cigogne blanche. Puis, grande première et grande nouveauté, une consultation citoyenne a été mise en place pour que vous votiez et choisissiez directement le modèle final.
Alors, comment ça fonctionne concrètement?
Alors, en allant directement sur le site du ministère de l'économie ou de la Banque Centrale Européenne, vous notez l'ensemble des modèles et vous avez jusqu'au 21 septembre. J'y suis allé hier, on m'a proposé les 10 modèles et j'ai dû attribuer un commentaire pour chaque charte graphique en allant du j'adore à je déteste. C'est long, mais au moins ça a le mérite d'être clair, objectif et sérieux et surtout ça a un intérêt européen. Ça donne le sentiment de participer à la construction d'une identité commune. Ça forge un sentiment d'appartenance fort. De la Bretagne jusqu'à la Lettonie, 353 millions d'Européens comme moi, comme vous, vont pouvoir voter pour le modèle des futurs billets de banque de la monnaie unique.
Pierre, à quoi ça sert tout ça? Et surtout, combien ça va nous coûter?
Oui, surtout, combien ça va coûter? Oui. C'est une question importante. Déjà, de façon très terre-à-terre, ça permet de renouveler le stock de billets, d'allonger la durée de vie de ces billets, plus résistants, mieux produits, d'intégrer des nouvelles technologies de pointe dans ces nouveaux billets et de lutter contre les faussaires, le trafic de faux billets. Maintenant, le coût. Le coût, cette opération est estimée à environ 800 millions d'euros, avec un prix de production fixé à 10 centimes. Oui, mais 800 millions d'euros au total, ça revient à un coût de 2,25 euros par habitant de la zone euro. Donc pas vraiment de quoi de polémiquer. Et puis surtout, ce sont des jolis billets.
Comme tous les jours, tiens, on va parler encore gros sous, on va parler des prix des carburants.
On parle des prix des carburants qui augmentent, hein, tout augmente aujourd'hui. 1,970 € pour le litre de sans-plomb 95, 2,168 € pour le gazole, c'était à 2,163 € hier. Le baril de pétrole lui aussi augmente, 87,71 $. Et le gaz augmente très fortement, on a déjà parlé, 61,64 €.
Merci beaucoup Pierre Rondeau, notre économiste, RMC 8h26. On va se détendre un peu, il a pris quelques jours de vacances, mais nous a laissé... Son meilleur, c'est Arnaud de Manche.
Le site pornographique X-Groovy pourrait être bloqué par l'Arcom dans les prochains jours parce qu'il est visité par des mineurs.
Oui, alors là, j'admets, je vais dire une vérité. Dans une actu comme ça, je fais toujours un peu la même vanne. Je dis « Oh, mais je connaissais pas YouPorn ». Mais alors là, pour le coup, c'est vrai. Je découvre X-Groovy. Si j'avais su, je serais allé voir parce qu'il y a une petite vibration jazz que j'aime bien. X-Groovy, c'est un super concept, quoi. Des vidéos porno et du jazz. Plan à trois, jubidoubile, fais gros sein. L'infirmière, tu te souillons, et j'enlève mon pantalon. Vous pouvez. Mon album X-Groovy, c'est sur le label Blue Note. Et sur TSF Jazz, les plus grands standards du jazz échangiste. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte échangiste et après je rase mes testicules. Non ! S'il vous plaît. C'était Michel Chaudas sur xgroovy.com. Merci Jonas et Michel. Bref.
Les mineurs ne sont pas censés regarder du porno. On faisait pas ça, nous d'ailleurs, à l'époque. On avait les catalogues de la Redoute avec des filles qui portaient les filles qui portaient des culottes de grand-mère, qui se caressaient le visage avec le masseur facial vibrant. Et tout le monde a compris ce que c'était 20 ans plus tard. Vous vous souvenez ce truc-là? C'était avant, voilà, ça se fait plus. Aujourd'hui, on ne recherche pas gaine beige contention la Redoute sur X-Groovy. Enfin, peut-être que si, mais c'est niche, quoi. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, c'était pas le catalogue de la Redoute, c'était alternative économique. Oh, la croissance allemande. Et son papa rentrait dans sa chambre.
Emmanuel, qu'est-ce que tu fais avec ce magazine L'Expansion? Et pourquoi tu as retiré ta cravate? Mais papa, je t'ai déjà dit de frapper avant de rentrer dans ma chambre.
On est fou quand on a 19 ans. Arnaud Demange, que vous pourrez retrouver évidemment en podcast sur rmc.fr. Dans un instant, la météo, le journal, et puis 5e canicule, sécheresse record, 43 départements en vigilance orange. À quoi ressemblera la France de demain? François Gemène, professeur à HEC, membre du GIEC et l'invité d'Apolline Matin. Ce sera à 8h45. À tout de suite. RMC, 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Grégoire Morelli. Grégoire, le démarchage téléphonique, c'est fini.
Oui, une nouvelle loi l'interdisant entre en vigueur aujourd'hui. La chaleur, elle fait son retour en France avec 43 départements classés en alerte orange canicule par Météo France. Et puis match retour ce soir en Ligue des Champions. Lyon affronte le Sparta Prague.
Dites au revoir au coup de fil intempestif.
Oui, fini les. Vous avez deux minutes pour parler de votre isolation. La nouvelle loi sur le démarchage téléphonique entre en vigueur aujourd'hui. Désormais, les entreprises devront avoir l'accord des consommateurs pour être démarchées. De quoi acter la fin du cauchemar de ces appels indésirables. Et les Parisiens à qui vous avez annoncé la nouvelle hier, Victor Girard, étaient ravis, on peut le dire.
Forcément une bonne nouvelle pour Marie-Ama et son portable envahi par ses appels au quotidien.
5 à 6 fois par jour, c'est épuisant. Jour les mêmes qui vous démarchent pendant qu'on est en train de faire des activités. Ah, regardez, y en a encore un là.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Je voulais savoir en fait actuellement si vous êtes en charge de certains produits pour faire de la rénovation de travaux chez vous.
Non, je suis pas intéressée. Merci, au revoir. Voilà, vous voyez, ils sont tout le temps en train d'appeler.
Alors quand la mère de famille de 49 ans apprend que les entreprises doivent maintenant obtenir son accord avant de la démarcher...
Mais c'est top ça!
Elle est ravie comme Cédric, mais lui craint néanmoins que le démarchage prenne désormais une autre forme.
Ce sera plus les emails, les réseaux sociaux, ça va repartir d'une autre manière. Il y a toujours eu du spam, et il y en aura toujours.
Ce que confirme Jérémy Schramm, expert en cybersécurité chez WatchGuard Technologies. Attention, selon lui, ce nouveau système de consentement pourrait aussi devenir une nouvelle arme entre les mains des escrocs pour piéger leurs victimes.
Un escroc pourra s'en servir pour asseoir les éléments qui vont faire qu'on aura tendance à lui faire confiance au téléphone. Je suis votre banquier, vous avez consenti à un appel... tel jour à telle heure. C'est une information de plus vous concernant.
Son conseil, ne jamais donner d'informations sensibles au téléphone.
Grégoire, la France replonge dans la fournaise.
Oui, nouvelle vague de chaleur attendue aujourd'hui, la 5e depuis le mois de mai. Et les températures vont aller à la hausse cette semaine. Aujourd'hui, 43 départements sont en alerte orange canicule, 67 demain, avec dans certains endroits le mercure qui va frôler les 40 degrés. Et à Bourges, les températures élevées se font déjà ressentir ce matin sur ce marché, comme nous l'explique cette primeur, Céline.
Il n'y a rien à faire, hein. On boit de l'eau et après on reste derrière les tables, on se rafraîchit comme on peut avec des brumisateurs. Les clients, ils arrivent souvent très tôt, juste après qu'on ait mis les prix la plupart du temps. Et on a toujours 2-3 clients à la fin du marché, mais ils sortent pas trop. Ils restent chez eux et puis ils profitent de la clim, de l'air frais. Des fois c'est compliqué en fin de marché parce qu'il y a la fatigue, je me couche tôt. Sur les gros marchés, je fais des siestes l'après-midi. Puis voilà, après on fait le travail et c'est tout, hein.
Mais qui dit canicule dit sécheresse.
Les préfectures ont imposé des restrictions d'eau à presque 70% du pays et le niveau des fleuves inquiète particulièrement. La vaste majorité du Rhin et de la Tamise, presque 2/3 du Danube et de longues parties du Rhône ont atteint des débits d'une faiblesse inédite pour un mois de juillet, Marion Gauthier.
Il ne reconnaît plus la Loire. Ses affluents asséchés sont des chemins de randonnée, s'inquiète Dominique de la Fédération de pêche du Loiret.
On voit des bancs de sable partout. Au niveau touristique, on a des passeurs de Loire qui font des balades en bateau, qui ont des difficultés pour circuler. La température de l'eau, je crois qu'elle était à 28 degrés aux dernières mesures que l'on a prises. Ça m'attriste, quoi. Je me dis, jusqu'à quand?
La pluie attendue pour septembre sur le Rhône, dont le débit est réduit aujourd'hui, rapporte Pierre-Jean Grangette de la Compagnie Nationale du Rhône.
Par rapport aux moyennes historiques, on est globalement 25% en dessous. Ça, c'est sur la mission production d'électroélectricité. On est dans des records de faiblesse de production. Aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences sur la navigation, ça n'a pas de conséquences sur l'irrigation. mais c'est des années qu'on risque de revoir.
Des tensions sur les écosystèmes, sur l'eau potable et les centrales nucléaires, liste le directeur de recherche en hydrologie, Éric Sauquet.
Ah bah, il y a par exemple Golfech, sur la Garonne, qui a été arrêté sans eau. De toute façon, ces centrales ne peuvent pas fonctionner. Elles ont besoin d'eau pour refroidir.
Les eaux européennes s'évaporent aussi, celles du Danube. La semaine dernière, la Hongrie a dû arrêter son unique centrale nucléaire.
La canicule, la sécheresse, à 8h45, François Gémen, professeur à HEC, membre du GIEC, des experts du climat, sera mon invité sur RMC, RMC Story.
On en vient à cette explosion mortelle dans un immeuble de Trévoux, dans l'Ain. C'était il y a 8 mois, les habitants sont en colère. Une partie des sinistrés se réunissait hier soir devant la mairie. Certains d'entre eux n'ont en effet toujours pas pu récupérer leurs affaires à l'intérieur de leur appartement. Faute, selon le bailleur, à l'amiante qui a été soufflée partout durant le drame. Pour rappel, le 16 décembre dernier, une résidente se donnait la mort en ouvrant le gaz dans son logement. La violente explosion avait provoqué la mort de 2 enfants de 3 et 5 ans. Vincent Chevalier a rencontré pour RMC ses habitants démunis.
8 mois après le drame, le traumatisme est toujours bien présent chez Farida, elle qui a vécu 43 ans dans cet immeuble.
À chaque fois que je reviens ici, c'est spécial. On dort pas la nuit comme on peut, on fait des cauchemars, on se réveille en sueur.
Un retour douloureux, mais impossible de faire autrement.
Il y a nos affaires dedans. Comment vous voulez qu'on revienne pas? S'il était vide, qu'il a été vidé, c'est pas pareil. Mais là, on a nos affaires et ça nous attire.
Quelques photos, quelques objets, voilà ce qui reste comme souvenir récupéré il y a quelques semaines. Tout le reste risque de partir à la benne le 17 août prochain.
Ils vont tout vider nos biens et vont les jeter dans une benne pour ou détruire ou murer tous les accès de l'immeuble.
Christina voudrait par exemple récupérer les bijoux du baptême de ses enfants, mais l'amiante présente dans le bâtiment et éparpillée lors de l'explosion les empêche de retourner sur les lieux.
Ça serait bien un deuxième passage, vu que ça a déjà été accordé en premier. Pourquoi pas un deuxième? Toute cette vitesse de démolir et jeter à la poubelle, c'est très triste. Très choquant.
Selon le bailleur, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour y retourner.
Du football à présent, l'été était programmé studieux pour l'Olympique lyonnais pour qu'il se qualifie en Ligue des Champions. Mais lors du match aller contre le Sparta Prague, les Lyonnais se sont compliqués la tâche en s'inclinant 2-1. Il faut donc renverser la table ce soir pour le match retour. Édouard G et Thomas Palmier.
Oui, et Paolo Fonseca, l'entraîneur, ne se pose d'ailleurs pas de questions.
Le groupe est bien et motivé. On a travaillé bien cette semaine. Nous devons risquer parce que nous avons besoin d'échanger un résultat négatif et nous devons risquer. Le même objectif, le même mindset. Nous savons que nous devons gagner le match.
Terminé donc la tactique frileuse du match aller. Place aux attaquants Malik Fofana et Ernest Nouama dans un groupe où le retour du Sénégalais Moussa Niakate fait déjà son effet, notamment à Tyler Morton, le milieu de terrain anglais de l'OL.
C'est un match à gagner à tout prix et avec Moussa, c'est un leader. Il parle beaucoup sur le terrain, il est sans cesse en train d'organiser le jeu. C'est un joueur incroyable qui a une très bonne qualité de passe. C'est super de pouvoir jouer avec lui.
Avec, pour gonfler leur motivation, un stade plein, 50 000 personnes qui voudraient éviter dès la mi-août une éclipse de l'OL de la Ligue des Champions qui serait mal vue après l'encourageante saison dernière.
Léon Marchand offre une première médaille à la France au championnat d'Europe de natation.
Le quadruple champion olympique a décroché avec son équipe l'argent hier sur le relais 4x200 mètres. Le championnat d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du centre aquatique olympique de Saint-Denis.
Et on termine avec le quintet.
Ce sera sur l'hippodrome de Deauville à 18h30. Voici le pronostic de RMC. Le favori, c'est le 3 double up. L'outsider, c'est le 6 Fearless Cheetah, le 3, le 6.
Merci beaucoup Grégoire, le prochain journal ce sera à 9h. Vous continuez de réagir sur l'actualité, sur au 3216, vous nous appelez, ou encore sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Clara, il y a quelques messages.
Beaucoup de messages sur cette entrée en vigueur de la loi sur le démarchage intempestif, vous savez, tous ces appels qui seront donc aujourd'hui considérés comme illégaux. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas vraiment en cette nouvelle loi, ils espèrent que ça change, mais voilà, pas beaucoup d'espoir concernant un véritable changement sur le téléphone.
On en a parlé tout à l'heure, notamment l'un des gros trous dans la raquette, c'est que les plateformes à l'étranger, elles, ne sont pas concernées par cette nouvelle loi. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction des colonies de vacances déconnectées, tiens, pour pas que les enfants reçoivent des appels intempestifs de leurs parents, par exemple. C'est dans un instant sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est 8h40. Et si votre enfant partait en colonie de vacances sans son téléphone portable à l'ère des réseaux sociaux, du numérique, de l'omniprésence des écrans? Eh bien, il existe depuis quelques années des séjours sans téléphone qui permettent souvent de mieux profiter en pleine nature, comme dans le Gers, à Ramouzens, au centre de l'Abeille Verte. C'est une association qui propose des séjours 100% nature avec des enfants prêts à jouer le jeu. Alexandre Thibault.
En arrivant ici avant-hier, Luca a dû laisser son téléphone dans une boîte.
C'est compliqué de passer de beaucoup d'écran jusqu'à aucun écran pendant un week-end et une semaine.
Le garçon de 13 ans commence finalement à s'y faire, mais garde une inquiétude.
En vrai, j'aimerais bien avoir le téléphone, comme ça je peux quand même dire à mes amis, parce que je sais que certains pourront s'inquiéter pour moi s'ils n'ont pas de mes nouvelles.
Et c'est la préoccupation qui revient chez les 6 préados inscrits à cette colonie de vacances nature, à côté d'un champ, d'une rivière et sous les arbres. Écrire à ses amis, Lola n'a que 12 ans, mais déjà une prise de conscience.
C'est juste qu'il faut que je me détache un peu des écrans, parce que sinon je veille jusqu'à 1h du matin, 2h. Ça me fait du bien, franchement. En plus, j'aime bien cet endroit. On est cocooning. Je me sens bien ici, j'ai pas besoin des écrans, quoi.
Elle sait d'ailleurs que pour les prochaines vacances, elle n'emmènera pas sa console de jeu. Juste à côté d'elle, sac de randonnée sur le dos, Chloé est aussi contente de pouvoir vivre ses vacances sans être inondée de messages de ses amis.
Un poids en moins. T'as pas besoin toujours de regarder ton téléphone pour installer des nouveaux messages, y répondre et tout.
Mais aussi de ses parents.
Ça fait du bien aussi, un peu, d'être lâché par les parents. Ils mettent une liste le matin, souvent. Chloé, tu feras la vaisselle, tu rangeras le linge, par exemple. C'est bien. Là, de faire ça de soi-même, en fait. Je suis autonome.
Pendant ces 6 jours, ils vont faire des randonnées, des cabanes, des jeux de société. Et en attendant, les téléphones sont pour certains gardés par les parents et pour d'autres...
Le portable fini dans la boîte.
Loïka est la cofondatrice de cette colonie de vacances.
La boîte est cachée dans le bureau et pour que les jeunes soient rassurés de déposer leur précieux, on le met sous clé aussi.
Souvent, l'inquiétude vient même plus des parents qui veulent avoir des nouvelles. Avec le téléphone du centre, ils peuvent s'appeler les mardis et jeudis uniquement.
Moi, je précise aussi souvent aux parents, si vous avez besoin de nouvelles, ce que je peux comprendre quand parfois c'est les premiers départs en colo, on veut des nouvelles, vous m'écrivez, je vous donne des nouvelles.
Le but, selon elle, permettre pendant 6 jours de se reconnecter à la nature.
C'est ce qui est intéressant et précieux pour nous aussi, de se dire, bah oui, en fait, t'entends la cigale, les oiseaux, que t'entends plus forcément quand t'as tes AirPods.
Et à la fin du séjour,
il y a ceux qui, bon, c'était suffisant, 6 jours, ça m'a suffi, et d'autres qui ont vraiment plus goûté ça, qui vont le refaire.
Certains jeunes reviennent même d'année en année dans ce centre pour goûter aux joies de la déconnexion.
RMC, 8h43, vous n'oubliez pas, dans un gros quart d'heure maintenant, les GG sont rentrés de vacances. Ils sont en direct à partir donc de 9h sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui autour d'Alain Marchal, Didier Giraud, Joël Dagosseri, Antoine Diers. Les GG, 9h midi sur RMC et sur RMC Story. Nous sommes adaptés à un climat qui n'existe plus. La 5e canicule de l'été s'installe. 95% du territoire a connu la sécheresse en juillet et ça ne va pas s'arranger. François Gémen, professeur à HEC, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et mon invité dans un instant, il est déjà avec nous en studio. On pourrait atteindre les 50 degrés l'été au cours des 20 prochaines années. Sommes-nous prêts? On se retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story. RMC, 8h47, une 5e canicule s'installe sur la France. 43 départements en vigilance orange ce mardi, plus de 35 degrés sur les 2/3 du pays demain. Juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré, notamment chez nous. Une sécheresse qui touche désormais 95% du territoire. L'été 2026, nouvel été hors norme. Bonjour François Gémen.
Bonjour, j'ai envie de vous dire nouvel été dans la norme en réalité. On
parle toujours d'été. L'exception devient la norme.
L'exception devient la norme.
Vous êtes professeur à HEC, membre du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Également auteur de Parler du climat sans plomber l'atmosphère, paru aux éditions Odile Jacob. François Gémen, justement, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de parler de ce qui nous arrive là? Sans plomber l'atmosphère, peut-on encore espérer quelque chose?
Bien sûr, je pense que c'est très important précisément de parler des solutions. Et le problème, c'est qu'on parle toujours de ces sujets un peu quand on est au milieu de la crise, quand on est en plein milieu d'une sécheresse, d'incendie, de canicule. Si on veut effectivement pouvoir en parler sans plomber l'atmosphère, il faut aussi en parler en dehors des périodes de stress et de crise. C'est le moment où on va déployer des solutions. Je parlais dans le couloir avant de rentrer sur le studio avec quelqu'un qui est responsable d'une société qui implante des caméras de surveillance des incendies. Mmh. Il me dit, le problème, c'est que tout le monde nous appelle l'été après les incendies. En réalité, il faudrait qu'on ait les appels l'hiver pour que les gens se préparent à la prochaine saison des incendies. Et c'est un peu le problème. Je passe tout mon été dans vos studios et je viens toujours avec plaisir, évidemment. Mais l'enjeu, c'est aussi d'en parler en dehors de ces périodes de crise.
Est-ce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est vague de canicule, cinquième vague de canicule depuis fin mai. Cette sécheresse qui est d'ores et déjà historique, est-ce que ça c'est notre nouveau climat ?
Oui, et c'est un nouveau climat d'abord auquel nous ne sommes pas préparés. On voit bien à l'évidence les enjeux d'adaptation. Et c'est un climat que nous avons créé aussi par notre dépendance aux énergies fossiles. Et en soi, c'est une bonne nouvelle, puisque comme nous sommes intégralement responsables de ce nouveau climat, ça veut dire que nous avons aussi les moyens de le limiter, nous avons les moyens d'agir. Et ça, je crois que c'est très important. On a parfois un peu une attitude un peu fataliste en se disant que faire face aux canicules, face aux incendies, face aux sécheresses. Nous avons les moyens d'agir à la fois pour limiter la hausse des températures et pour nous adapter à ce nouveau climat qu'on ne connaît pas encore vraiment.
Vous connaissez la rengaine, et c'est pas une critique quand je dis ça, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent sur RMC, RMC Story, puis je l'entends autour de moi, on l'entend tous, nous disent « Oui, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ?» Vous nous dites qu'il faut qu'on change les choses, mais qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, je crois que souvent, le discours a trop porté sur les actions individuelles et on a fait porter aux gens la responsabilité de l'action face au changement climatique. C'est d'abord, il faut le dire, une responsabilité qui incombe au pouvoir public, qui incombe aux entreprises. Alors bien entendu, il y a des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien et on a tous une responsabilité. Mais je crois que parfois, ce discours qui a fait peser la responsabilité de l'action sur les épaules des gens...
Y compris de la part de nos gouvernants.
Hein. Y compris de la part de nos gouvernants. C'était parfois une façon pour les gouvernements de se défausser de leur responsabilité sur les épaules des citoyens.
L'Europe est le continent où l'on meurt le plus des canicules. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est le continent où la température se réchauffe le plus rapidement. Alors, il y a des raisons de courant atmosphérique, des raisons de lutte contre la pollution atmosphérique qui expliquent ça. Donc, ça se réchauffe plus rapidement en Europe qu'ailleurs. Et surtout, c'est un continent qui n'était pas du tout préparé. D'autres pays, notamment dans les pays du Sud, ont pris conscience beaucoup plus tôt de leur exposition aux fortes chaleurs et aux risques. Et donc, c'est pour ça qu'en matière d'adaptation, on a parfois aussi beaucoup de leçons à aller chercher dans les pays du Sud, parce qu'en Europe, on est très très mal préparé. Et j'irai même plus loin, Paris est la ville d'Europe où on meurt le plus des canicules, simplement parce que les bâtiments n'ont pas été conçus pour ça. On le voit bien aujourd'hui.
Vous dites qu'on pourrait gratter les 50 degrés d'ici 20 ans. Demain, les deux tiers du pays seront à plus de 35 degrés, il y aura des pointes à 40. D'ici 20 ans, 50 degrés ? Est-ce qu'on pourra le supporter ? Comment on peut s'y préparer ?
Alors, il faut pas faire peur aux gens. Très clairement, on n'aura pas 50 degrés pendant tout l'été. Par contre, il n'est pas exclu qu'à certains endroits du territoire, pendant quelques jours, on aille toucher la barre des 50 degrés. Et si je le dis, c'est pas du tout pour affoler les gens, c'est simplement pour qu'on se prépare. Nous avons quelques années devant nous avant que ça n'arrive. Il faut être conscient que c'est une possibilité et que plus on va attendre avant de se préparer, évidemment, plus ça va être difficile et plus ça va coûter de l'argent.
Vous savez comment les gens s'y préparent à l'heure actuelle. Là, encore une fois, c'est la vie réelle. Moi, je le vois autour de moi, je l'entends autour de moi. Beaucoup nous disent... J'habite dans le Nord, hein.
Monsieur.
Et beaucoup me disent autour de moi, moi, ça y est, je vais faire installer la clim.
Bien sûr. Et je le comprends parfaitement.
Mais est-ce que c'est bien ou pas bien?
Alors, moi, d'abord, j'ai pas de jugement à porter. Les gens vont s'adapter comme ils le peuvent. Simplement, je crois qu'on a fait longtemps culpabiliser les gens en disant la clim a des effets catastrophique pour l'environnement. C'est vrai ailleurs dans le monde, c'est pas le cas en France où l'électricité est très largement décarbonée et donc le fait de consommer de l'électricité en plus en France, ça n'ajoute pas des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont associés à la clim, notamment les rejets de chaleur humains, mais ce sont des inconvénients locaux qui n'ont pas d'impact sur le climat global. Le vrai enjeu, à mon sens, sur la clim, c'est de savoir quel type de clim on va installer. Et je comprends la réaction des gens qui se disent on va acheter un petit climatiseur mobile à quelques centaines d'euros. Le problème, c'est que souvent, c'est pas les clims les plus efficaces qui vont avoir effectivement que les gens vont acheter en premier. L'enjeu, je crois, ça serait de développer une vraie politique publique de climatisation qui permette l'installation de climatiseurs réversibles qui vont non seulement rafraîchir la température l'été, mais qui vont également permettre de se chauffer l'hiver et qui vont permettre aussi de décarboner effectivement son chauffage. Et avec des climatiseurs réversibles comme des pompes à chaleur, en réalité, vous avez un bénéfice pour le climat plutôt qu'un coût pour le climat.
95% du territoire est touché par la sécheresse cet été. Est-ce qu'il va falloir changer nos comportements dans l'usage de l'eau?
Il va falloir changer beaucoup de choses, notamment pour l'agriculture qui est la première consommatrice d'eau. On va falloir aller vers des cultures qui soient davantage résistantes à la chaleur, vers des cultures qui soient qui soient moins gourmandes en eau également. Ça va être aussi une question d'arbitrage.
Lesquelles par exemple?
Par exemple, le maïs aujourd'hui, c'est une culture qui est très très gourmande en eau. On consomme très peu de maïs en France, essentiellement destiné à l'alimentation du bétail et à l'exportation. C'est potentiellement une culture qui va devoir évoluer. Et puis, il faut lui dire aussi, il va falloir davantage de péréquation entre les différents territoires. Vous avez des territoires, notamment dans le Nord, où il ne va pas y avoir beaucoup de problèmes d'eau. Vous allez avoir des territoires qui vont être en situation de sécheresse chronique. Les Romains avaient des aqueducs. Il va falloir remettre en place, je pense, un système d'aqueducs ou de pipelines pour transférer de l'eau de certaines régions du territoire à d'autres. C'est aussi une question de solidarité nationale.
80% des Français se disent inquiets. Et l'exécutif, le gouvernement, publie des conseils anti-éco-anxiété sur Instagram, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne réponse?
Alors, si c'est la seule réponse, clairement, ça ne va pas suffire. Je comprends parfaitement qu'on soit inquiet, je dirais même c'est une réaction relativement normale. Le problème, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. On a parfois l'impression que c'est l'impréparation du gouvernement qui va créer cette éco-anxiété et que donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On peut pas
juste... rien, mais n'ayez pas peur.
On peut pas juste donner des conseils aux gens. La question de l'adaptation, c'est pas juste des conseils de bon sens ou contre l'éco-anxiété. C'est une vraie stratégie d'investissement public.
Merci beaucoup, François Gémen, d'avoir été avec nous, professeur à HEC, membre du GIEC et auteur de Parler du climat sans plomber l'atmosphère. Je pense que vous avez essayé de le faire ce matin sur RMC, RMC Story. C'est paru aux éditions Odile Jacob. RMC, Alain Marchal vient de nous rejoindre à l'instant.
Oui, monsieur.
Parce que dans quelques instants, les GG sont rentrés de vacances. Je le répète depuis hier, les GG en direct. Il y aura qui autour de toi?
Eh ben justement, on aura un agriculteur avec nous, notre agriculteur Didier Giraud, qui accompagne les grandes gueules depuis 20 ans, parce que la FNSEA demande des milliards d'euros pour compenser les pertes dues à la canicule, dues à la sécheresse. Mais est-ce que ça doit être du donnant-donnant? C'est-à-dire, on dit aux agriculteurs, ok, on vous donne des milliards d'euros pour compenser, mais qu'est-ce que vous faites pour transformer peut-être votre agriculture?
C'est le grand enjeu, Alain Marchal. Voilà. Comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs à transformer les modèles agricoles?
On en parlera avec Didier Giraud. On reviendra sur ces mairies du Sud qui disent maintenant stop, plus de construction de piscines. Alors, bien sûr, on peut comprendre le réflexe de dire on doit gérer l'eau, mais vous avez aussi une filière économique qui dit nous, au printemps, quand arrivent les dossiers pour construire les piscines, désolé, mais c'est nos chiffres d'affaires.
On est le deuxième pays au monde où il y a le plus de piscines privées après les États-Unis.
Et surtout, avec les canicules, il va falloir davantage de points d'eau et donc davantage de piscines. Donc, on est toujours sur ces injonctions.
Il y a du paradoxe. On reviendra aussi sur l'Espagne qui est sur le qui-vive avec les appels à traverser de nouveau du côté de Ceuta. Est-ce qu'on est va vivre une nouvelle crise migratoire? On reparlera de ce qui se passe à Marseille avec la consommation de crack qui explose. C'est-à-dire que Marseille était la narcoville du cannabis. Est-ce que ça va devenir crackville, Marseille? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
Les GG tout de suite sur RMC Story. Et nous, on se retrouve demain dès 7h. À demain.